vous allez entendre un message de William Marion Branham intitulé « La plus grande bataille jamais livrée ». Prêché le 11 mars 1962 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Merci, frère Orman, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, chers amis. Je suis heureux d'être à nouveau ici ce matin. C'est en quelque sorte un peu inattendu pour moi-même, et je suis sûr pour vous aussi. J'étais en train de lire et le Seigneur a mis sur mon cœur quelque chose à apporter à l'Église, et j'ai pensé que le temps était venu d'en parler. Et lorsque je suis arrivé ici, je ne pensais pas être présent pour ce dimanche. C'est pourquoi, Dieu voulant, j'apporterai ce message dimanche prochain. Ce sera un long message et probablement que nous ne terminerons pas avant midi et demi ou une heure. Il y a longtemps qu'il est sur mon cœur. Et je pense que je suis aussi redevable au public d'une réponse, car je n'ai pas été très actif sur le champ missionnaire. Cependant, j'ai prêché un peu partout. Mais je pense que, si le Seigneur le veut, je prendrai mon temps dimanche prochain pour exposer mes raisons et vous présenter d'une manière scripturaire ce qui est en train de se passer. Vous voyez, tout ce qu'il en est de ces choses, parce qu'il est probable que je vais bientôt m'en aller outre-mer ou ailleurs. J'attends maintenant pour voir sur quel chemin il m'enverra. Il y a 3 jours, ou plutôt 2, j'ai reçu un appel téléphonique vers minuit, me demandant de prier pour une femme qui était à l'hôpital. On m'appela, me demandant de prier, et j'ai oublié le nom que l'on me donna, mais c'était une amie de sœur James Bell, notre sœur de couleur de cette église. Une vraie fidèle, une femme de bien. Je crois que le nom que l'on m'a donné était Shepherd. Ainsi, je sortis du lit et m'agenouillai, racontant cela à ma femme, car la sonnerie du téléphone l'avait réveillée. Je lui dis, nous devons prier pour Madame Shepherd. Cette sœur a appelé et dit qu'elle est une amie de Madame James Bell. Alors nous avons prié pour elle, puis nous sommes retournés au lit, et vers les 10 ou 11 heures du jour suivant, je reçus de nouveau un appel. C'était Billy me disant qu'il ne s'agissait pas de Madame Shepherd, mais bien de Madame Bell elle-même, qu'elle était à l'hôpital et que son cas était grave. Je me précipitai à l'hôpital, mais elle s'en était allée. Le Seigneur avait rappelé Sœur Bell à lui. Sœur Bell est venue fidèlement avec nous dans cette église pendant des années. Son époux James et moi-même avons travaillé avec mon père plusieurs années pour la Pennsylvanie et Colgate. Il y a de cela bien des années, 30 ans ou plus, je pense. Et nous aimions bien Sœur Bell. Elle était vraiment quelqu'un de bien. Comme je l'ai compris, elle avait eu une violente attaque de la vésicule biliaire et son médecin, qui connaissait bien son cas, était parti quelque temps de la ville. Le nouveau médecin qui l'ausculta recommanda une opération urgente. Mais elle n'y survécut pas. Comme je l'ai compris, son médecin habituel n'aurait pas prescrit cette opération, parce que sa vésicule biliaire était en trop mauvais état, et qu'elle avait des pierres, je crois, ou quelque chose comme cela. Le Seigneur a été compatissant, car elle avait eu d'autres crises auparavant, et il avait pris soin d'elle chaque fois. Mais il a fallu qu'il arrive cela. Mais disons les choses comme elles sont. Dieu a appelé Sœur Bell, et c'est de cette façon qu'il a voulu la prendre. Vous voyez, je ne sais pas comment il se fait que j'ai pensé et qu'il s'agissait de Mademoiselle Shepherd, car je ne connais pas Mademoiselle Shepherd. Cette personne est peut-être ici ce matin, peut-être que je la reconnaîtrais si je voyais son visage. Mais on m'a dit que c'était Mademoiselle Shepherd. Si j'avais su que c'était Sœur Bell qui se trouvait dans cette condition, je serais probablement allé directement là-bas intercéder pour elle. Mais vous voyez, peut-être que Dieu n'a pas voulu que nous fassions cela. Ainsi, nous savons que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis sûr que Sœur Bell aimait notre Seigneur. Elle était une brave femme. Elle était l'une d'entre nous, car pour nous, il n'y a pas ici de différence à cause de la couleur. La famille de Dieu n'est pas séparée par la couleur. que nous soyons rouges, bruns, noirs ou jaunes, n'a aucune importance. Que nous soyons blancs ou autres, nous sommes frères et sœurs en Christ. Ainsi nous l'aimions, et c'est une perte pour tous ceux de ce tabernacle. Combien vont me manquer les grands et vigoureux Amen de Sœur Belle qui venait du coin là-bas au fond. Et lorsque je la ramenais à la maison, elle parlait du Seigneur Jésus. Si j'ai bien compris, je viens de l'apprendre il y a un instant, les funérailles auront lieu ici, dans cette église, mardi prochain à 1 h. Je pense que vous, frère Neville, et moi-même, devrons présider ce service funèbre. Frère Branham parle à frère Neville, note de l'éditeur. Mais dans cette assemblée, puisque depuis ce matin quelqu'un manque au milieu de nous, restons debout un moment par respect pour notre sœur Belle pendant que nous inclinons nos têtes. Dieu de la vie, toi qui donnes et qui reprends la vie, nous disons comme Job le dit autrefois, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. Il y a bien des années, tu as envoyé sœur Belle parmi nous pour être une concitoyenne de ce grand royaume de Dieu. Et nous te remercions pour toute source d'inspiration qu'elle a été pour nous, car elle aimait chanter, témoigner, et elle a été tellement remplie de l'Esprit qu'elle en poussait des cris de joie. Elle n'a pas eu honte de l'Évangile de Jésus-Christ, car pour elle, il était la puissance de Dieu conduisant au salut. Elle voyait grandir le nombre de ses années et venir le jour où, comme chacun d'entre nous, elle aurait à répondre pour elle-même. Et ce matin, tu l'as prise du milieu de nous pour être en ta présence, car il est vrai que lorsque nous nous en allons d'ici, c'est pour être dans la présence de Dieu. Ô Dieu, nous te remercions pour tout. Nous te prions de bénir son mari, mon ami James, son fils, ses filles et tous ceux. Nous savons que son fils est en train de venir de l'Allemagne par avion, où il est dans l'armée, pour rendre sur cette terre le dernier hommage à sa mère qui a quitté ce monde. Combien le cœur de ce jeune homme doit être ému ce matin. Je te prie pour lui, Seigneur. Ô Dieu, bénis-le, bénis Jimmy, car tu le vois travailler et faire de longues heures fatigantes pour faire vivre sa famille. Et je te demande que cette grande famille ne soit pas séparée, mais que le cercle familial se retrouve entier au jour où ils seront de l'autre côté. Que nous puissions, Seigneur, resserrer les attaches de notre armure et de notre ceinture, afin d'entrer dans la bataille et combattre avec plus d'ardeur que la semaine passée. Nous te demandons de nous soutenir, de nous fortifier et de nous aider alors que nous continuons la course, et que nous puissions un jour être tous rassemblés de l'autre côté. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Que l'âme de notre sœur décédée repose en paix. J'aimerais dire encore que le culte funéraire sera prêché ici mardi, et que chacun est le bienvenu s'il veut y assister. Je pense que frère Leville a pris toutes les dispositions. Aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de monde, et l'on pourrait apporter un siège pour frère et sœur Slaughter là-bas au fond. J'ai reçu votre appel, sœur Slaughter, et je suis allé prier aussi pour l'autre sœur, sœur Jean Slaughter, qui a une violente fièvre, de la tularémia. Certainement que c'est un mauvais cas, mais nous avons confiance dans le Seigneur qu'elle sera guérie. Maintenant, nous allons lire quelques passages des Écritures, car je veux enseigner ce matin, et je prendrai mon temps, car je suis revenu de l'Arizona et je suis un peu enroué. Et dimanche prochain, n'oubliez pas, je pense que Billy a déjà expédié les annonces, je crois que ce sera un long service. C'est pourquoi venez assez tôt, aussitôt que vous le pourrez. Nous commencerons à 9h30 ou 10h, jusqu'à 12h30 ou 1 h, quelque chose comme 3 ou 4 heures de prédication ou davantage. J'aime prendre les Écritures et les exposer. Vous devriez prendre avec vous un crayon et du papier. S'il y a une question, vous la poserez et peut-être que nous pourrons y répondre. Nous ferons ce que nous pourrons pour vous aider. Maintenant, lisons quelques Écritures pour commencer. Il y a 3 endroits dans la Bible où j'aimerais lire. Je veux me référer à plusieurs textes de l'Écriture ce matin, et le premier sera 1 Pierre 5, 8 à 10, puis Éphésiens 6, 10 à 17, et Daniel 12, 1 à 14. Nous prendrons le temps de bien lire ces passages. À peu près tous sont assis, à part quelques-uns qui sont debout en arrière et sur le côté. Mais nous essayerons d'aller aussi vite que possible. Puis nous laisserons sortir ceux qui doivent s'en aller et nous prierons pour les malades. Il y a ici une dame. Elle est couchée ici depuis ce matin. Elle est très malade. Et je crois qu'elle était très malade hier. Et je voulais qu'elle puisse entendre ce que je vais dire ce matin avant de prier pour elle. Je connais l'état de cette petite dame. Elle est vraiment très malade. Mais nous avons un glorieux Père Céleste qui est plus que vainqueur de toutes les maladies. J'ai lu un petit article dans lequel un docteur en médecine qui critiquait la guérison divine a été vraiment surpris. Il ne permettait à personne, pas même à son infirmière, d'en parler dans son cabinet. Mais il arriva qu'il reçut une patiente qui avait un énorme cancer. Comme il ne voulait pas s'occuper de ce cas, il l'envoya à une autre clinique. La clinique ne voulut pas non plus s'en occuper et ils la lui renvoyèrent. Oh, c'était un cancer du sein et elle était dans un état désespéré. Toute la peau avait été rongée et le cancer s'enfonçait dans les chairs jusqu'aux côtes. Je suppose que vous comprenez ce que cela signifie. Nous avons notre ami, le petit docteur de Norvège, assis avec nous ce matin. Il avait préparé tout ce qui était nécessaire car il voulait l'opérer et lui enlever le sein. C'était un travail vraiment sanglant et il avait mis toutes sortes de pansements, etc. L'infirmière prépara cette dame. Elle l'introduisit dans la salle d'opération, puis elle retourna chercher les instruments qu'allait employer le chirurgien et son assistant pour enlever ce sein. Ainsi, ils avaient leurs instruments étalés là, et quand il voulut commencer, son mari avait demandé de pouvoir s'asseoir au bout de la pièce pour prier. Il était un prédicateur de la sainteté. Il était assis au pied du lit et il priait. Naturellement que le docteur n'était pas très satisfait de cela. Vous savez, qu'il reste là. Mais aussi longtemps qu'il ne regardait pas et que cela ne lui faisait pas de mal, c'était en ordre. Qu'il ne s'évanouisse pas. Ainsi, pendant qu'il était assis et priait, il se fit une agitation dans la pièce. Et le docteur se tourna pour prendre ses instruments afin de commencer à enlever ce sein. Il enleva les bandages les uns après les autres, et voici qu'il n'y avait pas même une cicatrice sur la poitrine. Pas même une cicatrice. Il dit, est-elle partie? Et il s'arrêta. L'infirmière donna son témoignage. Les deux s'en allèrent et devinrent pentecôtistes, furent remplis du Saint-Esprit, et maintenant ils servent le Seigneur. Même pas une cicatrice. Le docteur Holbrook en rend témoignage lui-même. Une minute auparavant, cette femme était étendue là et il y avait sur sa poitrine l'excroissance de ce grand cancer. Une minute plus tard, il n'y avait même plus une cicatrice. C'est l'un de nos meilleurs médecins ici en Amérique. Il dit qu'il a été alors tout à fait convaincu et maintenant il est diacre dans une église. Vous voyez, les gens pensent que l'église est un endroit où vous allez juste pour apprendre à être bon ou pour quelque chose de semblable. Ce n'est pas cela, mes amis. Non, Dieu est Dieu. Il est tout aussi grand aujourd'hui qu'il l'a toujours été. Et il sera toujours le même. Simplement, nous l'aimons. Maintenant, nous voulons lire dans 1 Pierre, le 5e chapitre, le 8e et le 10e verset, pour commencer. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Que Dieu soit loué. Maintenant, dans l'Épître aux Éphésiens, nous voulons nous reporter au 6e chapitre des Éphésiens et lire du 10e au 17e verset. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Maintenant, dans le livre de Daniel, j'aimerais lire encore quelque chose. Daniel, le 12e chapitre. Je veux commencer au premier verset et lire une grande partie de ce chapitre jusqu'au 14e verset. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses viendront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais prendre mon sujet de ce texte, si on peut l'appeler un sujet, et en tirer ce titre, « La plus grande bataille jamais livrée ». C'est cela mon sujet pour aujourd'hui. Maintenant, comment en suis-je arrivé à prendre ceci comme sujet pour ce matin? Nous venons d'arriver car quelques conseillers de l'Église et moi-même, nous étions en Arizona. Nous sommes allés pour avoir une rencontre à Phoenix, dans le tabernacle de frère Sherritt. Mais quand j'ai découvert qu'un frère était dans la ville et qu'il tenait une réunion sous tente, j'ai préféré ne pas faire de réunion en même temps que lui. J'ai pensé que je pourrais peut-être la faire le dimanche après-midi afin de ne pas déranger nos frères et leurs églises. Mais il se trouvait qu'il y avait également un service le dimanche après-midi. Il m'était difficile dans ces conditions de tenir une réunion. Aussi avec les frères, nous nous sommes préparés pour aller au culte présidé par frère Allen. Nous nous sommes donc rendus à la réunion du frère Allen et il a prêché un puissant sermon. Nous avons passé un bon moment à écouter frère Allen et à entendre les chanteurs. Ce fut un beau culte. Nous avons vu tout au long du chemin la main du Seigneur. N'importe où que nous allions, nous pouvions voir que le Seigneur voulait nous rencontrer. Il y avait quelque chose qui nous faisait sortir de nous-mêmes et nous attirait dans le désert. C'est là, je suppose, une des raisons pour lesquelles j'aime ces lieux éloignés de tout. On s'en va loin du pouvoir de l'ennemi. Un démon est presque inoffensif s'il n'a pas quelque chose par le moyen duquel il puisse agir. Vous rappelez-vous ces démons qui avaient été chassés de Légion? Ils voulaient faire encore d'autres méchancetés, et c'est pourquoi ils voulurent aller dans les ports. Le diable a besoin de quelque chose pour y œuvrer, quelqu'un par qui agir. Et c'est aussi la manière que Dieu emploie. Il faut qu'il nous ait. Il dépend de nous pour travailler au travers de nous. Et plusieurs sont venus pendant notre tournée et nous racontèrent les songes qu'ils avaient eus, et le Seigneur n'a jamais manqué de donner l'interprétation correcte. Dans sa bonté, il nous conduisit là où il y avait du gibier, nous montrant où il se trouvait. C'était simplement merveilleux d'être là-bas, assis le soir, autour du feu de camp, à des kilomètres et des kilomètres de la circulation, et de regarder le feu de camp qui projetait sa lumière vacillante sur les rochers des alentours. C'était extraordinaire. Il y avait là un frère qui avait eu des difficultés avec sa femme. Des années auparavant, dans une réunion où je tenais un service de guérison, elle avait levé la tête, alors que j'avais demandé aux gens de tenir la tête baissée. Il y avait sur la plateforme un mauvais esprit qui ne voulait pas quitter une femme. Et cette dame, dans la salle, avec un manque total de respect, leva tout de même la tête. Et l'esprit quitta la femme qui était sur la plateforme pour entrer en elle. Il y a environ 14 ans de cela. Et cette dame est tombée dans un triste état, même au point de vue mental, jusqu'à faire des choses tout à fait fausses. Par exemple, elle laissa son propre mari, s'en alla et alla se marier avec un autre homme, tandis qu'elle vivait encore avec son mari. Elle affirmait ne pas savoir qu'elle avait fait cela. Ils essayèrent de l'examiner. Comment appelez-vous cela? L'amnésie. Oh, je ne me rappelle jamais quel est ce nom. Je suppose que c'est juste, docteur. Mais ce n'était pas cela, c'était un esprit. Cette dame était une de nos meilleures amies, mais depuis ce soir-là, elle me haït. Naturellement que vous en voyez la raison. Mais quand son mari vint et que nous nous mîmes à genoux dans la pièce pour prier, alors le Saint-Esprit descendit, c'était cela. Puis il apparut à son mari cette nuit-là dans un rêve. Il revint nous raconter ce rêve, et il pensait que ce n'était qu'un rêve ordinaire, mais nous découvrîmes que c'était la réponse au sujet de la guérison de sa femme. Combien le Saint-Esprit a agi merveilleusement. Et là-bas à Tucson, avec frère Norman et lui, le Seigneur commença de nouveau à faire de grandes et de puissantes choses et de donner des révélations. Un soir, je me trouvais avec frère Wood et frère Soffman, et c'était environ 10 heures, et je regardais vers le ciel, quand une crainte respectueuse vint sur moi, et je dis, toute chose se trouve dans une parfaite harmonie. Et frère Wood dit, regardez ces deux petites étoiles, elles sont si proches l'une de l'autre qu'elles semblent briller d'un seul éclat. Je dis, mais savez-vous, frère Wood, que la science l'appelle l'ours, la petite et la grande ours? Ces étoiles ne semblent pas être séparées de plus de 2 pouces l'une de l'autre. Et pourtant, elles sont plus éloignées l'une de l'autre que nous ne le sommes d'elles. Et si elles voulaient venir vers la Terre à la vitesse de milliers de kilomètres à l'heure, cela leur prendrait des centaines et des centaines d'années pour atteindre la Terre. Et je dis, dans tous ces grands systèmes dont nous parlent ceux qui les observent par les télescopes, on peut voir à la distance de 120 millions d'années-lumière. Et il y a encore et toujours des lunes et des étoiles. Cependant, Dieu a fait chacune d'entre elles et il les a toutes mises à leur place. Et il est assis au milieu d'elles. Et je dis quelque part là-dedans, on m'a montré une fois le zodiaque dans un observatoire. Celui-ci commence avec la Vierge, passe au travers de l'âge du Cancer, parvient jusqu'au dernier âge du Lion, Léon le Lion. La première venue du Christ était par la Vierge. Sa seconde venue sera par le Lion de la tribu de Juda. Je dis, j'essaie de mon mieux de voir le zodiaque, et je ne peux le voir, mais cependant il est là. Ceux qui ont l'habitude de ces choses-là savent qu'il est là. Job le vit. Les hommes avaient l'habitude de l'observer. Il était comme une Bible en ces temps-là. Mais Dieu se tient au milieu de toute cette grande masse de millions et de milliards d'années-lumière. Et il regarde en bas. Paul se trouve là, ma mère est là quelque part, et regarde en bas. Et je pensais à l'ordre de ces armées célestes. Chacune est à sa place. Chaque étoile de cette grande armée de Dieu garde parfaitement son temps. Je pensais à tous ces soldats et comment, si la lune se détraquait, la terre serait de nouveau couverte d'eau en quelques minutes. La terre serait juste comme elle était quand Dieu décida de l'employer pour nous y faire habiter. Elle était informe et vide. Il y avait des ténèbres et les eaux recouvraient toute la surface de la terre. Et si jamais la lune s'en allait, la même chose se reproduirait. Lorsque la lune s'écarte un peu de la terre, voilà que les marées montent. Si elle se rapproche, la marée suit. suit simplement le mouvement. C'est la grande armée de Dieu. Et quand je pensais que tout cela, c'était la grande armée de Dieu, puis nous sommes allés au lit et je recommençais à penser que pas une d'entre elles ne bougeait de sa place. Toutes demeuraient à leur place. Et s'il y a un mouvement quelque part au milieu d'elles, il y a une raison à cela. Et cela affecte notre terre. Nous en voyons déjà le résultat, quelle que soit celle qui se déplace vers un autre endroit. Cela produit son effet. Toutes choses en sont affectées. Puis je pensais que si cette grande armée céleste devait garder sa place comme cela pour accomplir toutes choses dans l'ordre, qu'en était-il du désordre de l'armée terrestre? Nous voyons que si l'un se détraque, cela désorganise tout le reste. Le programme entier de Dieu est bouleversé quand un seul membre sort de l'ordre. Nous devons continuellement tendre à garder l'ordre de l'esprit. Et ce matin, je voudrais que nous ayons, avec l'aide de Dieu, un véritable service de guérison. Que nous puissions garder ce groupe rassemblé sous ce toit ce matin dans une telle harmonie. Veille le Saint-Esprit placer chaque membre du corps qui est ici ce matin dans une harmonie telle qu'il y ait une guérison spontanée de l'âme et du corps. Si nous gardons simplement notre position. Or, comme je le disais au commencement de cette réunion, cette dame qui avait le cancer et que le docteur Holbrook voulait opérer, le Dieu qui a causé ce bruit dans la clinique en enlevant ce cancer, sans qu'il laisse même une cicatrice, ne savez-vous pas que c'est le même Dieu qui est ici? Et la seule chose qu'il attend de son armée, c'est qu'elle garde sa position, comme les étoiles gardent leur position. Savez-vous que nous avons une guerre après l'autre et des bruits de guerre? Et si la terre subsiste, nous aurons encore plus de guerres. Vous rendez-vous compte qu'il n'y a en réalité que deux puissances dans tout l'univers. Dans tous les différents existants entre les nations et entre toutes choses, il ne reste en fin de compte que deux puissances. Il y a seulement deux puissances et deux royaumes. Deux autorités et deux royaumes. Tout le reste, toutes les choses de moindre importance, se rattachent à l'une ou l'autre de ces puissances. Et ces puissances sont la puissance de Dieu et la puissance de Satan. C'est pourquoi toute guerre, tout désordre, toutes choses qui surviennent sont dirigées soit par la puissance de Dieu, soit par la puissance de Satan. Parce que ce sont les deux seules autorités qu'il y ait. Ce sont d'une part la puissance de la vie et d'autre part la puissance de la mort. Ce sont là les deux seules puissances. Et Satan ne peut que... La puissance qu'il a est la puissance de Dieu perverti. Ce n'est pas une puissance réelle. Tout ce que Satan a est une perversion de la puissance de Dieu. La mort est seulement une vie pervertie. Le mensonge est une vérité faussement racontée. Vous voyez, l'adultère est le mauvais emploi d'un acte. Un acte juste mal employé, vous voyez. Tout ce qu'a Satan est quelque chose qui a été perverti, mais c'est une puissance. Et nous qui sommes assis ici aujourd'hui, c'est l'une ou l'autre de ces puissances qui nous domine. C'est pourquoi chassons le méchant, prenons notre position comme le font les étoiles dans le ciel. La Bible parle des astres errants dans le livre de Jude, rejetant l'écume de leur propre honte. Nous ne voulons pas être des astres errants. Se demandant si ceci est juste ou si cela est juste, se demandant si ceci arrivera ou comment cela peut être, ne vous demandez pas, demeurez pareil à ces étoiles dans le ciel qui gardent leur position comme de véritables soldats. Restez à votre poste et ayez la foi. La vie est la mort. Une armée, quand une nation se prépare pour faire la guerre à une autre nation, elle doit d'abord s'asseoir pour évaluer ce qui est juste et ce qui est faux. Et pour savoir si elle a une force suffisante pour s'attaquer à l'autre nation ou pays, ou pas. Jésus a enseigné cela. Si l'on faisait cela, si les nations s'arrêtaient, s'asseyaient pour réfléchir à ces choses, chacune de son côté, il n'y aurait plus de guerre. Nous constatons que si un homme ne fait pas cela, si l'état-major de la nation ne s'assied pas premièrement pour examiner s'ils ont raison, si leurs motifs et leurs objectifs sont justes, et s'ils ont suffisamment de force pour vaincre l'autre armée, alors ils peuvent être sûrs de perdre la guerre. C'est là où le général Kösser commit sa méprise fatale. Comme je l'ai compris, le général Kösser avait reçu l'ordre du gouvernement de ne pas entrer dans le territoire des Sioux, parce que c'était une période de fête religieuse pour eux. C'était un temps d'adoration et ils allaient avoir une fête. Mais Kösser avait bu et il voulait le faire de toute manière. Qu'il y ait des ordres ou pas, il voulait traverser le territoire. Et alors, il tira sur quelques hommes innocents. Du moins, il tira contre eux. Et je pense qu'il en atteignit quelques-uns. Il s'agissait d'éclaireurs qui étaient partis à la chasse pour nourrir le peuple pendant que les gens étaient en adoration. Et Kösser, en traversant le territoire, les vit. Et il pensa qu'ils venaient contre lui. Et c'est ainsi qu'ils tirèrent contre ces éclaireurs. Ceux-ci prirent la fuite, s'en retournèrent. Que firent-ils? Ils s'armèrent, revinrent, et ce fut la fin du général Kösser. Tout cela parce qu'il ne s'était pas assis premièrement pour réfléchir. Il n'avait rien à faire là, il n'avait pas le droit d'être là. De toute façon, il aurait à repousser les Indiens de la côte est vers l'ouest. Ils avaient fait un traité, mais il viola ce traité, et quand il rompit cet accord, il perdit la bataille. Ainsi, une armée, avant qu'elle ne soit prête pour aller au combat, doit avoir des soldats d'élite. Ils doivent être habillés pour la bataille. Ils doivent être entraînés au combat. Et je crois que la plus grande bataille jamais livrée est prête à être engagée. Je crois que Dieu est en train de choisir ses soldats. Je crois qu'il les aligne, les entraîne. Maintenant, le front de bataille est établi et le combat est prêt à commencer. Cette plus grande bataille qui ait jamais été livrée a commencé dans les cieux quand Michel et ses anges combattirent contre Lucifer et ses anges. Le premier combat eut lieu dans les cieux, ce qui fait que le péché n'a pas commencé sur la terre, mais dans le ciel. Puis il a été rejeté du ciel, chassé du ciel sur la terre. Il est tombé sur les hommes. Alors le combat entre les anges est devenu un combat humain. Et Satan est venu pour détruire la création de Dieu. Ce que Dieu avait créé pour lui-même, Satan est venu pour le détruire. C'était là son intention, détruire. Alors le combat a commencé ici sur la terre. Il a commencé en nous. Et depuis lors, il n'a cessé de faire rage. Avant qu'une bataille puisse avoir lieu, il faut premièrement que soit choisi un lieu de rencontre, un endroit où le combat puisse se dérouler, à un endroit choisi. Lors de la Première Guerre mondiale, ce lieu était un no man's land. C'était l'endroit où ils combattaient, l'endroit qui avait été choisi. C'est comme quand Israël s'en alla faire la guerre aux Philistins. Il y avait une colline de chaque côté de l'endroit où ils s'étaient rassemblés. Et c'est de là que sortit Goliath pour crier contre les armées d'Israël. C'est dans la vallée que David le rencontra, après avoir passé le petit ruisseau qui coulait entre les deux collines, où il prit les cailloux. Cela devait être un endroit choisi. C'est là qu'il y a un terrain commun, un no man's land, et ils combattent en ce lieu. Il n'y en a pas quelques-uns qui se battent là en haut, quelques-uns là en bas, et d'autres encore juste ici. Il y a un front de bataille, où ils se rencontrent et éprouvent leur force, où chaque armée éprouve sa puissance contre l'autre armée. Ils s'affrontent tous au même endroit. Maintenant, ne manquez pas ceci. Quand cette grande bataille a commencé sur terre, il devait y avoir un champ de bataille. Il fallait qu'un endroit ait été choisi où le combat puisse s'engager et faire rage. Ce champ de bataille se trouve dans la pensée humaine. C'est là que le combat a commencé. La pensée humaine a été choisi comme champ de bataille. Le combat n'a pas commencé dans quelques organisations. Il n'a pas commencé pour des raisons matérielles. Ce ne sont pas les choses d'en bas qui l'ont commencé. Par conséquent, une organisation ne peut jamais, jamais faire l'œuvre de Dieu. Parce que le champ de bataille où nous avons à rencontrer notre ennemi se trouve dans notre pensée. Vous avez à faire un choix. Il est là. Je voudrais que la jeune fille qui est là-bas et qui est très malade écoute très attentivement ceci. Les décisions sont prises dans la pensée, dans la tête. C'est là que Satan vient à notre rencontre. Et les décisions existent parce que c'est ainsi que Dieu a fait l'homme. Si vous regardiez sur la feuille de papier que j'ai ici, vous verriez un petit croquis que j'ai fait. Il n'y a pas longtemps que je l'ai dessiné, je l'ai reporté au tableau noir. L'être humain est constitué comme un grain de blé. C'est une semence. Et l'être humain est une semence. Physiquement, vous êtes la semence de votre père et de votre mère. Et la vie vient du père et la chair vient de la mère. Ainsi, les deux ensemble, l'œuf et le sang, s'assemblent et dans la cellule du sang se trouve la vie. C'est là que commence le développement qui va faire l'enfant. La semence est formée d'une enveloppe à l'extérieur et de la chair à l'intérieur, et à l'intérieur de la chair se trouve le germe de vie. C'est de cette façon que nous sommes formés. Nous sommes corps, âme et esprit. L'extérieur, le corps, est l'enveloppe. L'intérieur, la conscience, etc., est l'âme. Puis à l'intérieur de l'âme se trouve l'esprit, et l'esprit gouverne tous les autres. Quand vous irez à la maison, asseyez-vous, vous dessinerez trois cercles. Remarquez que le corps extérieur a cinq sens par lesquels on peut prendre contact avec lui. Ce sont la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Ce sont là les cinq sens qui dirigent le corps humain. À l'intérieur du corps, il y a une âme. Et l'âme est dirigée par l'imagination, la conscience, la mémoire, la raison et les sentiments. Ce sont là les choses qui dirigent l'âme. Mais l'esprit, lui, n'a qu'un sens. L'esprit, comprenez bien cela, l'esprit a un seul sens. Et ce sens qui le domine est soit la foi, soit le doute. C'est vrai. Il n'y a qu'un chemin pour venir à lui. C'est celui du libre arbitre. Vous pouvez accepter le doute ou accepter la foi. Celui des deux que vous désirez voir agir en vous. C'est la raison pour laquelle le rôle principal de Satan est de conduire l'esprit de l'homme à douter de la parole de Dieu. Au commencement, le rôle principal de Dieu avait été de déposer sa parole dans l'esprit de l'homme. C'est cela qui se passe. Si maintenant cette Église pouvait être assemblée et unie de telle façon que tous ici soient d'un même accord, sans qu'il y ait où que ce soit l'ombre d'un doute, il n'y aurait en l'espace de 5 minutes plus une seule personne faible au milieu de nous. Il n'y aurait plus personne désirant le Saint-Esprit qui ne l'ait reçu. Si vous pouviez simplement être fondé sur cette chose-là. C'est là où commence le combat, juste dans votre pensée. Maintenant, rappelez-vous que ceci n'est pas de la science chrétienne, la pensée dominant la matière, etc. La pensée accepte la vie qui est la parole de Dieu. Et celle-ci apporte la vie. Vos pensées toutes seules ne peuvent pas le faire. Mais la parole de Dieu, amenée par le canal de vos pensées, le fait. Voyez ? Ce n'est pas la pensée comme le fait la science chrétienne, disant que la pensée domine la matière. Non, ce n'est pas cela. Mais votre pensée accepte la parole et la saisit. Par qui votre pensée est-elle gouvernée ? Par votre esprit. Et votre esprit saisit la parole de Dieu. C'est cette parole qui a la vie en elle, et elle vous apporte la vie. Oh, frère, quand cela arrive, quand la vie descend par ce canal en vous, alors la parole de Dieu est manifestée en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Alors que se passera-t-il ? Du milieu du cœur où se trouve l'âme, de là sortira ce qui nourrit tous les différents canaux. Le malheur vient de ce que l'on se tient ici avec toutes sortes de doutes, essayant d'accepter les choses de là-haut. Vous devez arrêter de faire cela et laisser passer la vraie parole de Dieu au travers de chaque canal. Alors cela sortira de soi-même, automatiquement. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Satan vous attaque par l'intérieur. Vous direz, je ne vole pas, je ne bois pas, je ne fais pas ceci ou cela. Cela n'a aucun rapport. Ce qui compte, c'est l'intérieur. Peu importe combien vous êtes bon, combien vous êtes moral, combien vous êtes fidèle, ces choses sont respectables, mais Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, voyez, il faut que quelque chose se passe à l'intérieur. Sinon, ce n'est qu'un faux semblant, car au fond de votre cœur, il y a encore le désir de faire le mal. Il ne faut pas que ce soit artificiel. Cela doit être réel. Il y a un seul chemin pour que cela vienne en vous, c'est par le chemin du libre arbitre, venant dans votre âme par vos pensées. Un homme est tel que sont les pensées de son cœur. Si vous dites à cette montagne, déplace-toi, et que vous ne doutiez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous pouvez avoir ce que vous dites, vous l'obtenez. Comprenez-vous cela ? voyez, c'est là que se trouve le champ de bataille. Si seulement vous commenciez premièrement par cela. Nous désirons tellement voir quelque chose se faire. Nous tenons tellement à faire quelque chose pour Dieu. Cette dame voudrait tellement vivre. Elle voudrait se bien porter. D'autres sont ici qui désirent la santé. Et quand nous entendons parler de ce cas arrivé chez ce médecin, de la résurrection de ce mort et des choses glorieuses et puissantes que notre Dieu a faites, alors il y a en nous un grand désir. Et les choses sont telles que nous cherchons à atteindre par le moyen de ces sens tels que la conscience, de saisir fermement quelque chose. Très souvent, beaucoup de personnes ont mal interprété la parole. Et j'ai moi-même été souvent mal compris en ce que je disais au sujet de l'appel à l'autel. J'ai dit que je n'étais pas très favorable à l'appel pour venir à l'autel. Non, parce que je pense qu'il ne faudrait pas faire d'appel à l'autel. Mais une personne prend une autre personne par le bras et lui dit « Oh, frère John, savez-vous quoi? Vous et moi sommes voisins depuis si longtemps. Venez donc à l'autel avec moi. Allons-y donc. » Qu'est-il en train de faire? J'aimerais avoir un tableau noir ici pour que je puisse vous montrer ce qu'il est en train de faire. Il essaye d'agir par le moyen de son âme, de ses sentiments, mais cela ne peut pas agir. Ce n'est pas le chemin, certainement qu'il ne l'est pas. Peut-être est-il en train d'agir par la mémoire, l'un des sens de son âme. « Oh, frère John, vous aviez une mère merveilleuse, elle est morte il y a déjà bien longtemps. » La mémoire, vous voyez, vous ne pouvez pas faire cela. Cela doit venir par la voie du libre arbitre. Vous-même, laissez à la parole de Dieu. Vous n'êtes pas venu parce que votre mère était une brave femme. Vous n'êtes pas venu parce que vous étiez un bon voisin. Vous êtes venu parce que Dieu vous a appelé à venir et que vous l'avez accepté sur la base de sa parole. C'est cette parole qui signifie tout. Cette parole, si vous pouvez tout enlever du chemin, la conscience, tous les sens, et juste laisser entrer la parole, cette parole produira parfaitement ce qu'elle doit produire. Voyez ici avec quoi cela est recouvert. Vous dites, eh bien, cette conscience, ces sentiments, etc., n'ont rien à faire avec cela, frère Branham. Certainement, si vous laissez entrer la parole et la recouvrez de la conscience, alors elle ne peut croître. Elle deviendra une parole déformée. N'avez-vous jamais vu un bon grain de blé jeté en terre, sur lequel on a laissé tomber un bâton? Il se déforme lors de sa croissance. C'est ainsi que grandira quelqu'un ou quelque chose auquel une entrave a été mise. Voilà, c'est ce qu'il y a avec notre foi pentecôtiste d'aujourd'hui. Nous avons laissé trop de choses entraver la foi qui nous a été enseignée, le Saint-Esprit vivant en nous. Nous avons laissé trop de choses. Regardant aux autres, le diable essaye toujours de vous faire remarquer les manquements des autres, et il fait de son mieux pour vous garder loin du témoignage réel de ce qui est authentique. Il vous montre parfois un hypocrite, lequel essaye d'imiter quelque chose. Il le fait parce qu'il est un imitateur. Mais, si cela vient de la véritable source de la parole de Dieu, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Elle subsistera. Comprenez-vous cela, sœur? Cela doit d'abord être accepté dans la pensée, puis cela est cru par le cœur. Alors la parole de Dieu devient une réalité, puis tous les sens de l'âme et du corps sont nettoyés par le Saint-Esprit. Alors vous avez le sens de Dieu, la conscience de Dieu. Alors tout ce qui est divin s'écoule au travers de vous. Il n'y a pas un seul doute quelque part. Rien ne peut s'élever, rien qui puisse venir à la mémoire et dire, eh bien, je me rappelle que Miss John a essayé de se confier en Dieu, Miss telle et telle, Miss Lou a essayé une fois de se confier en Dieu pour la guérison, ça n'a pas réussi, voyez. Mais si le canal a été nettoyé, qu'il a été purgé, qu'il est rempli de l'intérieur par le Saint-Esprit, cela ne doit même pas revenir à la mémoire. Peu importe ce qui concerne Miss Jones et ce qu'elle a fait. C'est une affaire entre Dieu et vous, et personne d'autre que vous deux. Voilà, c'est là votre combat. Tuez-le immédiatement. Arrêtez-le complètement sur son chemin. Il ne s'agit pas de savoir combien de temps vous voulez faire la guerre ou faire durer la guerre. Il faut la terminer à l'instant. Si vous venez et gardez le souvenir, la conscience, toutes ces pensées comme « Bien, mais je risque d'échouer. Peut-être que ce n'est pas juste. » Ne faites pas cela du tout. mettez tout de côté et ouvrez le canal en disant, ô Dieu, ta parole est éternellement vraie, elle est pour moi. Si l'Église entière échoue, si le monde entier manque le but, malgré tout, cela ne peut manquer le but, parce que c'est ta parole-ci que je prends. C'est là que se déroule la bataille. Tout est là. Pourquoi le Dieu Tout-Puissant enlèverait-il un cancer du sein d'une femme sans laisser une seule cicatrice et laisserait-il mourir un enfant? C'est impossible. Une petite jeune fille, du lycée est venue ici il n'y a pas très longtemps. Sa mère m'avait appelé au téléphone me disant, Frère Branham, ma fille a la maladie de Hodgkin. C'est un cancer qui forme des cailloux. Le médecin avait pris un morceau de caillou dans sa gorge et l'avait envoyé pour le faire examiner. C'était vraiment la maladie de Hodgkin. Ainsi, il dit, le prochain caillou peut faire irruption dans son cœur, et si cela arrive, c'est la fin. Il dit, à voir comment se forment les caillots, elle n'aura probablement pas pour plus de 3 mois à vivre. La mère dit, que dois-je faire? La renvoyer à l'école? Il dit, qu'elle y aille, car elle s'en ira probablement tout à coup. Laissez-la aller et vivre aussi normalement que possible. Ne lui dites rien de cela. Ainsi, cette dame me dit, que dois-je faire? Je lui dis, amenez-la ici et placez-la dans la ligne de prière. Et je lui dis, vous viendrez avec elle. J'eus un sentiment un peu bizarre. Quand la petite jeune fille vint ce matin-là, les lèvres maquillées de bleu, comme ils le font à l'école, lorsque cette petite s'approcha, je ne savais pas qui elle était. Elle avait été sur le point de m'appeler au téléphone. Je touchais sa main et dis, « Bonjour, ma sœur. » La voilà, c'était elle. Je regardais sa mère un instant et je vis que les deux étaient sans Dieu, sans Christ. Je dis, « Comment pouvez-vous espérer la guérison sur cette base-là? Voulez-vous accepter Jésus-Christ pour votre sauveur personnel? Je dis, « Voulez-vous venir à ce bassin ici et être baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés ?» Elles répondirent, « Nous le voulons. » Oh ! Et vous savez ce qui arriva? Cette femme est peut-être assise ici ce matin. Plusieurs d'entre vous connaissent ce cas. Frère Mike Egan, un de nos conseillers, a observé le cas. C'était il y a environ 4 ou 5 ans. La petite jeune fille fut ramenée chez le médecin et on ne trouva plus en elle la moindre trace de la maladie de Hodgkin. Que s'était-il passé? Vous devez premièrement ouvrir le canal. Vous devez faire en sorte que le soldat, le Saint-Esprit, soit placé au front de la bataille pour prendre la parole de Dieu. Il est la parole, et il se tient là. Alors il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Chacun des autres canaux est nettoyé. C'est comme avec une vieille chaudière qui a un tuyau bouché. Vous l'allumez, et le voilà qui explose. C'est ce qu'il y a avec tant de chrétiens explosifs. Cela vient de ce qu'ils ne nettoient pas le canal. Ils ne descendent pas à l'intérieur. Vous devez le nettoyer, nettoyer la conscience, la mémoire, les pensées, laissant de côté toute chose et partant de l'intérieur avec la parole de Dieu sans mélange. C'est là ce qui est vrai. Peu importe si 10 000 personnes pleines de confiance meurent aujourd'hui de ce côté et que 10 000 meurent demain de cet autre côté, pleines de confiance, cela n'a rien à voir avec moi. Je suis une personne, un individu plein de confiance. Je crois personnellement ces choses. Et nous pourrons voir loin derrière nous si nous voulons ouvrir nos canaux. Alors, si nous pouvons voir, nous découvrons ceci et cela, et encore ceci et cela, des milliers de choses qui rendent témoignage. Mais le diable essaye de revenir, voyez. S'il peut revenir là, il mettra votre armée en déroute. Si vous êtes en possession de tous vos sens, la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, c'est très bien, mais ne vous confiez pas en eux, à moins qu'ils ne soient en accord avec la parole. Ils sont très bien, mais s'ils ne s'accordent pas avec la parole, ne les écoutez pas. Maintenant, l'imagination, la conscience, la mémoire, la raison, les sentiments sont quelque chose de très bien, s'ils s'accordent avec la parole. Mais si vos sentiments ne s'accordent pas avec la parole, débarrassez-vous d'eux, sinon le tuyau ne tardera pas à éclater. Vous voyez? Si votre raison est en désaccord avec la parole, éloignez-vous d'elle. C'est juste, si votre mémoire, si votre imagination, si votre conscience, si quelque chose ne s'accorde pas avec la parole qui vient de l'intérieur, débarrassez-vous-en. Alors que se passera-t-il? Vous allez devenir comme le système solaire. Alléluia! Dieu place les étoiles en orbite et il dit, reste ici jusqu'à ce que je t'appelle. Elle demeure là. Rien ne peut la faire se déplacer. Quand Dieu peut prendre un homme entre ses mains, jusqu'à ce que ses sens, sa conscience, toutes ces choses soient purifiées, au point qu'il se tienne avec Dieu derrière lui dans l'esprit, il n'y a plus un démon dans le monde qui puisse encore mettre un doute en lui. C'est exact. S'il vient par là en vous disant, tu ne te sens pas mieux, votre conscience est morte à une telle pensée. Le tuyau est tellement dégagé qu'il s'écrie, Alléluia! La soupape se met à siffler, gloire à Dieu! Et le canal chante, car il est assez propre et dégagé pour que la parole de Dieu, la puissance de Dieu, puisse agir au travers de lui. Vous comprenez? C'est là la chose principale. C'est votre champ de bataille. Votre champ de bataille est là en arrière, au commencement. Là en arrière dans l'âme, dans votre pensée qui s'ouvre. La pensée est la porte de votre âme, ou plutôt la porte de votre esprit. Votre pensée s'ouvre et accepte l'esprit, ou bien elle rejette l'esprit. Vous pouvez avoir conscience de quelque chose, ressentir quelques impressions et sensations, toutes ces choses, mais cela n'a aucun rapport. Ce sont juste de petites sensations. Mais quand on arrive à la réalité, alors votre pensée s'ouvre. Ou votre pensée accepte, ou bien elle le rejette. Dieu ne laisse aucun d'eux le manquer, vous voyez. C'est votre pensée qui ouvre la porte ou qui la ferme, qui écoute votre conscience, votre mémoire, vos sentiments. Mais quand votre pensée se ferme à ces choses, elle laisse entrer Dieu, l'esprit de sa parole, il souffle dehors le reste de toutes ces choses. Chaque doute s'en est allé, toute crainte a disparu, toute sensation de doute a disparu. Tout ce qui vient des sentiments est éliminé. Il ne reste plus rien d'autre que la parole de Dieu. Et Satan ne peut combattre contre cela. Il ne le peut pas. Il ne peut combattre contre elle. Nous savons quelle est la vérité. Cette bataille fait rage depuis les jours du Jardin d'Éden. Cette bataille dans la pensée humaine, c'est Satan qui l'a commencé. Que fit-il quand il rencontra Ève? Il ne nia pas la parole de Dieu. Il la travestit. Il boucha quelques petits canaux ici et là, il dit, mais certainement que Dieu, Genèse 3, certainement que Dieu, toutes ces choses qu'il a promises, il savait que la parole était exacte. Par conséquent, il savait aussi qu'il ne pourrait pas l'annuler brutalement, avec éclat. Mais comme on le dit familièrement, il leur dora la pilule. C'est un peu ce que faisait notre maman pour nous faire prendre une purge. Elle essayait de mettre du jus d'orange dans l'huile de ricin. Oh! Il vaut mieux prendre l'huile de ricin sans jus d'orange. C'est quelque chose d'hypocrite, voyez. Elle avait l'habitude de nous donner le soir de l'huile minérale contre le croup. Après l'avoir versée dans une cuillère, elle y mettait par-dessus du sucre, voyez. C'était un peu hypocrite, car cela nous brûlait les amygdales quand le sucre était fondu. Eh bien, mes amis, cela c'est la manière de Satan. Il essaye d'être hypocrite au sujet de la parole. Il essaye de vous montrer quelque chose de mieux. Un chemin plus facile, un plan plus raisonnable. Mais il n'y a pas de plan plus raisonnable que celui que Dieu a tracé au commencement. C'est sa parole. Gardez sa parole. Agrippez-vous à elle. Laissez-la vous saisir. Tenez-vous là avec elle. C'est ce qu'il faut. La bataille fit rage quand Ève ouvrit ses pensées pour écouter son propre raisonnement. C'est le conduit par lequel Satan entra. C'est le canal par lequel il descendit en elle, son raisonnement. Elle raisonna dans son âme. Elle vit le serpent de ses yeux. Il était très beau, de belle taille, et beaucoup mieux que son propre époux. Il était le plus rusé de toutes les bêtes des champs. Et il était probablement un être plus courtois que son époux. Se tenant là devant elle, il lui apparaissait comme une bête très virile. Il était tout simplement merveilleux. Elle a première chose qu'elle fit, ce fut d'ouvrir sa pensée. Et quand elle le fit, les raisonnements humains s'emparèrent d'elle. Oh, cela doit être quelque chose de sublime. Aujourd'hui encore, c'est ainsi qu'il agit avec la femme. Une femme qui a un gentil petit mari trouve quelque grand homme viril et cet homme essaye d'ouvrir le chemin de son raisonnement. Souvenez-vous, cela c'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre du diable. ou bien vice-versa, c'est l'homme à l'égard de la femme, ou la femme à l'égard de l'homme. Que ce soit l'un ou l'autre, que fait-il? Il travaille dans cette faculté de raisonnement par la conscience, au travers de laquelle il y a peu à peu des choses qui se mettent à passer. Mais donner la première place à la parole de Dieu. Un homme ne peut même pas arriver à... Il ne peut pécher, alléluia! Voici ici quelque chose de tout frais. Un homme ne peut pécher à moins d'avoir premièrement rejeté la parole de Dieu. Il ne peut pas pécher, c'est-à-dire ne pas croire, avant que premièrement il ne se soit débarrassé de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Il ne peut pécher. Ève ne pouvait pécher avant d'avoir mis de côté la parole de Dieu, ouvrant ainsi son canal au raisonnement de son âme, et commençant à raisonner. « Oh, mon mari ne m'a jamais parlé de ces choses, mais je crois que tu... Il m'a dit de ne pas faire cela, mais toi tu rends cela si réel, c'est si clair, je crois que cela sera merveilleux, parce que tu le rends si clair pour moi. » Vous voyez, c'est là qu'eut lieu le premier combat, et ce combat a causé toutes les autres guerres. Toute effusion de sang venue par la suite fut causée justement là, en Éden. Elle ne crut pas la parole de Dieu. Et si l'incrédulité en un seul petit iota de la parole de Dieu causa tous ces troubles, comment pourrions-nous revenir en ne croyant pas la parole? Vous ne le pouvez pas. Vous devez faire cesser toutes ces autres choses, la conscience, la mémoire, les raisonnements, toutes ces autres choses, rejetant les raisonnements. Nous ne devons pas raisonner du tout à ce propos, pas du tout. Nous acceptons simplement la parole sur la base de « Dieu l'a dit ». C'est cela qui établit un courant entre Dieu et vous. Chaque canal s'ouvre alors entre Dieu et vous. C'est là qu'a lieu le combat. C'est cela la ligne du front. N'employons pas un simple fusil. Prenons une bombe atomique. Faisons le travail correctement et prenons la bombe atomique de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette bombe, frère Branham? C'est la foi en sa parole. C'est là la bombe atomique de Dieu. Elle disperse à tous les vents les maladies et les démons. Elle les anéantit et les désintègre. Oh, elle les détruit tout simplement, désintégrant tout ce qui est impie. Quand cette bombe de foi tombe, avec la parole de Dieu derrière elle, son explosion souffle loin tout démon, toute maladie, toute infirmité. Vous dites, est-ce exact, frère Branham? Alors pourquoi cela agit-il avec les uns et pas avec les autres? C'est à cause du canal. Vous pouvez regarder extérieurement et le voir, mais vous devez l'avoir à l'intérieur et regarder de cette façon. Non pas regardant du dehors vers l'intérieur, mais vous devez être à l'intérieur regardant vers l'extérieur. Comprenez-vous? Vous ne pouvez venir par la raison, vous ne pouvez venir par ces autres choses. Vous devez venir par le canal de Dieu qui vient tout droit dans l'âme. Et comment faites-vous cela? Quel est le dernier canal? Est-ce la raison qui descend et dit « ce sont mes sentiments »? Oh, je peux toucher cela, oui voilà, oh, je peux le sentir, ainsi de suite. Ces choses sont là, oui. Ensuite, vous vous mettez à raisonner, eh bien, il semble savoir de quoi il parle. Le médecin dit que cela ne peut aller mieux, il faudrait que... Vous voyez, c'est justement là que vous êtes dans l'erreur. C'est le diable qui se tient là, c'est le diable qui introduit toutes ces choses en vous. Ne le croyez pas! Alléluia! La parole de Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. C'est juste. Comment pouvez-vous être un véritable soldat en dehors de cela? Je souhaite que tu sois en bonne santé. C'est là que se trouvent ces canaux. Ouvrez-les simplement. N'ayez pas le désir de passer à côté, car si Satan peut passer par eux, passer par la conscience et toutes ces autres choses, alors il va tout droit au fond de l'âme. Dans la pensée. Or, s'il peut vous avoir, vous ne regardez jamais à l'un d'eux tant que vous ne l'avez pas laissé entrer ici. Il faut que vous l'ayez laissé entrer. Alors, quand il est dedans, il prend la direction des choses. Que fait-il? Alors, il commence par employer la conscience. C'est cela qu'il emploie. Il commence à utiliser cette issue. Qu'est-ce que c'est? La vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, l'imagination, la conscience, la mémoire, la raison, les sentiments. Il commence à employer tous ces différents petits canaux pour autant qu'il puisse se placer au-dessus de celui-ci. Il faut qu'il arrive à venir premièrement dans votre pensée et que vous l'acceptiez. Il peut écouter, il peut frapper à coups répétés contre vous, mais il ne peut venir à vous sans que vous l'acceptiez. Lorsque Satan se rendit vers Ève, elle lui dit, « Tu sais, le fruit est agréable. » Elle s'arrête un moment. Oh, c'est là qu'elle fit une faute. Quand elle s'arrête un moment, ne vous arrêtez à aucun prix. Vous avez reçu le message. Jésus est vivant. Dieu guérit. C'est cela le message. Que rien ne vous arrête. Ne raisonnez pas. Ne faites rien de pareil. Mais elle s'arrête avant. C'est alors que Satan entra directement dans sa pensée. Elle dit, eh bien, cela semble raisonnable. Oh, ne faites pas cela. Prenez simplement ce que Dieu dit. Que serait-il arrivé si Abraham s'était arrêté pour raisonner lorsque Dieu lui dit qu'il allait avoir un bébé de Sarah alors qu'elle avait 65 ans et lui 75? Et lorsqu'il eut 100 ans et qu'il en avait 90, il continua à confesser que la parole de Dieu était vraie. Et il parlait de ces choses qui n'étaient point comme si elles étaient là. Vous voyez? Il espérait encore. Y avait-il encore l'espoir? L'espoir ne lui aurait servi à rien. Eh bien, direz-vous, j'espère que je pourrai aller bien. J'espère que je serai guéri. J'espère que j'ai le Saint-Esprit. J'espère que je suis un chrétien. J'espère que je fais ceci ou cela. Vous n'avez pas besoin de cela. Jamais Abraham n'a regardé à cela. Amen. Contre toute espérance, il continua à croire la parole de Dieu. La foi est au-delà de l'espérance. La foi vient de là-bas derrière, de l'intérieur. La foi vient de là. Comment y est-elle entrée? Par la pensée, par cette porte. Le front de la bataille se trouve là. Maintenant, quand vous vous placez en ordre de bataille, le diable se trouve juste auprès de chaque cœur ce matin. Il se trouve là, près du cœur de cette petite fille. Il se tient près de votre cœur. Il se tient partout dans cette salle. Il dit, « Oh, j'ai vu essayer cela auparavant. J'ai déjà entendu cela auparavant. Chassez-le dehors. Voilà tout. Chassez-le dehors. C'est juste. Chassez-le dehors. » Que disait la Bible ici dans notre texte? Le rejetant au dehors. C'est juste. Chassez-le dehors. Nous avons reçu un entraînement, je pense. Que se passe-t-il avec nous autres prédicateurs? Je me demande quelle sorte d'entraînement nous avons reçu. L'entraînement de Dieu pour cette grande bataille. Matthieu 24 dit qu'il y aura, et Daniel 12 dit aussi qu'il y aura un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu auparavant sur la terre. Et nous vivons dans un temps où la culture, l'éducation et ces choses ont étouffé la parole de Dieu et ont pénétré dans notre raisonnement et ainsi de suite. La bataille a lieu maintenant. Qui est-ce qui la soutient? Alléluia! La bataille est prête à s'engager. Les armées sont en position maintenant. Voyez quelle grande opposition nous avons là-bas. Qui sera le David qui dira, vous restez là à supporter que ce Philistin circoncis défie l'armée du Dieu vivant? Moi, j'irai le combattre. Amen. Ce matin, Dieu désire avoir des hommes et des femmes qui puissent se lever et dire, je prends le Seigneur au mot selon sa parole. Amen. Peu importe les échecs qu'a fait celui-ci ou ce qu'a fait celui-là, cela n'a rien à voir là-dedans. Vous, les Saül et les autres, si vous avez peur de lui, retournez chez vous. Mais l'armée de Dieu marche en avant. Amen. Des hommes de valeur, des hommes de foi, des hommes puissants, des hommes pleins de compréhension. Ils n'ont pas besoin d'être rusés, ils n'ont pas besoin d'être instruits. Ils doivent être des canaux. Dieu prend ces petits canaux. Ève s'arrête un moment pour raisonner, disant, eh bien, voyons un peu cela. C'est juste comme... Qu'en est-il de cette jeune fille qui est ici ce matin? Sans doute que le médecin lui a dit qu'elle était au bout de la course et qu'il ne pouvait plus rien faire pour elle. Ce médecin, je ne le condamne pas, c'est un homme de science. Il voit bien que la maladie a pris possession du corps de cet enfant. C'est arrivé à un point tel qu'il n'y a aucun médicament qui puisse la guérir. Ainsi, le cancer a conquis cette jeune fille. Certainement que la mort a conquis cet enfant, mais notre commandant en chef, le capitaine de cette grande armée, alléluia, est la résurrection et la vie. Rien ne peut le vaincre, alléluia. Le cerveau de l'armée, son intelligence se trouve dans ses capitaines. Rommel était le cerveau de l'Allemagne. Ce n'était pas Hitler, c'était Rommel, c'est exact. Eisenhower, un soldat. Patton, ces hommes qui étaient sur le front, tous dépendaient des ordres qu'ils donnaient. Vous suivez votre capitaine. S'il est un bon général, s'il est de la bonne sorte, si c'est un général à 4 étoiles, s'il a été prouvé comme étant un bon chef, suivez-le. Quoi qu'il puisse vous sembler être dans l'erreur, avancez vers le front. Faites ce qu'il vous dit. Alléluia. Nous avons un général à 5 étoiles qui s'appelle Jésus. Et nous plaçons 5 étoiles sur notre foi. En anglais, faith, F-A-I-T-H, note de l'éditeur. Il n'a jamais perdu une seule bataille. Alléluia. Il a conquis la mort, le séjour des morts et la tombe. Il a chassé les démons hors de notre chemin. Il est le grand capitaine en chef. Aussi le diable disparaît de la scène. La plus grande bataille qui ait jamais fait rage dans l'univers se prépare maintenant même. Certainement. Alléluia. Quand je pense à cela, quand je me tiens là et que je le regarde faire ces choses, que je le vois les révéler, les dévoiler, dire ce sera comme ceci et comme cela, et que cela arrive comme il l'a dit, oh, regarderez-vous en arrière en disant « Qui est ce grand capitaine ?»« Oh, moi, je ne regarde pas en arrière pour voir si c'est le docteur tel et tel. » J'écoute ce que dit le capitaine. Il est le capitaine de notre salut. Alléluia. Qu'est-ce que le salut? C'est la délivrance. Quelle gloire! Il est le capitaine de notre salut, de notre délivrance. L'heure glorieuse du chargé est proche. Alléluia. Les armures de soldats étincellent. Les étendards flottent au vent. La foi et le doute se sont rangés en ordre de bataille dans ce tabernacle ce matin. Le doute d'un côté, la foi de l'autre. Soldats, soyez à votre poste. Alléluia. Notre capitaine, l'étoile du matin, nous conduit. Il ne recule jamais. Il ne connaît même pas le mot de retraite. Il n'a pas à battre en retraite. Amen, c'est certain. La plus grande bataille jamais livrée s'engage juste ici, maintenant, c'est vrai, entre la vie et la mort, entre la maladie et la santé, entre la foi et le doute, entre la liberté et l'esclavage. La bataille est commencée. Soldats, faites briller vos lances, astiquez votre armure. Dieu est en train de préparer ses soldats. Amen. Dieu oint son armée. L'Amérique équipe ses soldats avec tout ce qu'elle a de meilleur. Casque d'acier, armure, et tout ce qu'ils ont, tanks blindés et tous leurs véhicules. Dieu lui aussi équipe son armée. Alléluia! Quelle sorte d'équipement employons-nous? L'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Amen! La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, Hébreux 4. Tranchant jusqu'aux jointures et aux os, même jusqu'à la moelle des os. Elle discerne les pensées des cœurs. C'est la parole de Dieu. Croire en sa parole. Voilà comment l'on revêt l'armure de Dieu. C'est ce qu'il a donné à Ève pour s'armer elle-même. Mais elle a brisé son armure. Comment fit-elle cela? En ouvrant sa pensée au raisonnement. Vous ne pouvez raisonner avec la parole de Dieu. Il n'y a point de raisonnement en elle. C'est simplement la parole de Dieu. Il n'y a pas de doute à son sujet. On ne discute pas la parole. C'est la parole de Dieu. Un point, c'est tout. Cela suffit. La chose est établie pour toujours. Vous voyez ce que je veux dire? La parole de Dieu. Dieu l'a promis. C'est Dieu qui l'a dit. Ils ont dit à Abraham, comment sais-tu que tu auras cet enfant? Dieu l'a dit. Cela suffit. Eh bien, pourquoi ne l'as-tu pas encore? Je ne sais pas quand je le recevrai, mais je le recevrai, Dieu l'a dit. Cela ne m'arrêtera en rien. Il saisit, pourquoi ne retournes-tu pas dans le pays d'où tu es venu? je dois être pèlerin et étranger dans ce pays. Amen. Dieu a donné la promesse. Dieu donnera l'enfant juste dans ce pays où il m'a envoyé. Alléluia. Dieu vous guérira précisément dans cette atmosphère du Saint-Esprit où il vous a envoyé. Dieu vous donnera cela. Croyez-le simplement. Amen. Ouvrez ces conduits de l'âme et du corps, les sens et la conscience, et laissez simplement pénétrer la parole de Dieu. Prenez premièrement la pensée. C'est là que se trouve le champ de bataille. Ne dites pas, si je pouvais le sentir, si je pouvais sentir la gloire de Dieu descendre, oh, cela n'a aucun rapport. Ouvrez votre pensée, car c'est là le champ de bataille. C'est là que le combat se déroule. C'est là que le front de bataille, dans votre pensée. Ouvrez-la et dites, je doute de tous mes doutes. Amen. Je ne crois plus à mes doutes maintenant. Je crois à la parole de Dieu. C'est ainsi que je viens, Satan. Alors quelque chose doit se passer. Il oint ses serviteurs de son esprit. Il leur envoie des anges. Parfois les gens se moquent de cela, des anges. Laissez-moi revenir avec vous à quelque chose, juste une minute. Lisons dans les Hébreux, juste une minute. Hébreux chapitre 4. Je veux dire le premier chapitre des Hébreux, le verset 14e. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite? Des anges de Dieu. Ici, la Bible nous dit sans détour que Dieu a envoyé des anges. Quelle gloire! Qui sont-ils? Des esprits exerçant un ministère. Que c'est glorieux. Des esprits exerçant un ministère et venant d'où? De la présence de Dieu. Pour faire quoi? Pour administrer sa parole. Amen. Ils ne sont pas là pour administrer la théologie d'un groupe dénominationnel quelconque, mais pour administrer sa parole. C'est pour cela que sont envoyés ces esprits administrateurs. Comment pourrons-nous savoir qu'ils le sont? La Bible dit que la parole du Seigneur vient au prophète. Est-ce juste? Ces anges administrent sa parole par son esprit. Ils exercent le ministère de la parole par le Saint-Esprit. Et l'esprit et la parole viennent au prophète. Et le prophète a la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle ils ont pu faire tous ces miracles. Ce n'était pas l'homme, c'était l'esprit de Dieu dans l'homme. L'esprit de Christ dans l'homme. Car la parole de Dieu... Qu'a-t-il fait? Nettoyer chaque conduit. Dieu l'a choisi et il fut roi du Saint-Esprit. Ce n'est pas lui qui a fait cela. Il ne fait jamais rien sans l'avoir vu d'abord dans une vision. Et il dit sur le mont Carmel, j'ai fait tout cela selon ton commandement. Maintenant, Seigneur, fais connaître que tu es Dieu. Oh, gloire à Dieu! J'ai vu cela si souvent. Quand vous voyez l'Esprit de Dieu frapper un lieu et que ce lieu vienne sous l'onction, si ce petit groupe ici ce matin pouvait recevoir simplement cette pensée-ci et ôter tout doute du chemin, comment pouvez-vous encore douter quand vous voyez les morts ressuscités, les paralytiques marcher, les aveugles voir, les sourds entendre? L'ange du Seigneur, dont la photographie est suspendue ici au mur, a embarrassé la science partout. Que fait-il? Il reste en accord parfait avec la parole. Amen. Cela ferme la porte au nez de tout démon, c'est vrai. Qu'est-ce que cela? C'est l'esprit administrateur envoyé de la présence de Dieu pour oindre les prédicateurs de la parole, lesquels s'en tiennent à la parole. Et ils confirment la parole par les signes qui l'accompagnent. Ils présentent Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est là. Comment pouvons-nous douter quand scientifiquement, matériellement, et spirituellement, de toute manière possible, son existence a été prouvée. Alors qu'y a-t-il? Cela vient de notre pensée. Nous ouvrons nos pensées à toutes sortes de choses et disons, « Oh, je ne sais pas si cela peut être ou non. Peut-être que si je me sens mieux demain, oh, cela est tout à fait faux !» Comme je l'ai souvent dit, Abraham a peut-être dit à Sarah, elle avait dépassé l'âge d'avoir ce que les femmes ont, vous comprenez ce que je veux dire, le temps de sa vie. La période de 28 jours, vous voyez, elle avait 65 ans, et le temps était probablement passé depuis 15 ou 20 ans. Et il lui dit, peut-être dans les jours qui suivirent, « Sens-tu un changement, ma chérie ? pas la moindre différence. Ce que tu ressens n'a aucune importance. Allons de l'avant, quoi qu'il arrive. Eh bien maintenant, si tu redeviens une jeune femme, nous savons que c'est par le sang que vient la vie. C'est par ce moyen que le bébé peut venir et toutes choses se passeront bien. Maintenant, aujourd'hui, sens-tu une différence? Un mois s'est déjà écoulé depuis qu'il m'a fait la promesse. Sens-tu un changement, chérie? Pas le moindre, Abraham. Il n'y a pas un signe, rien. C'est toujours pareil à ce que je suis depuis ces dernières années. Il n'y a pas la moindre différence. Gloire à Dieu, nous l'aurons de toute façon. À ce sujet, Abraham, penses-tu que... Écoute, il te l'a promis. Sûrement qu'il nous donnera un signe dans ce sens. Certainement qu'il nous donnera un signe. Ah! Alléluia! Une génération méchante et adultère veut des signes. C'est exact. Il avait un signe. Qu'était-ce? La parole de Dieu. C'était cela le signe. Comment Dieu peut-il guérir ses enfants? La parole de Dieu dit qu'il le peut. Que je ressente une sensation ou pas. Peu importe ce qui arrive, Dieu l'a dit et la chose est réglée. Abraham dit, rassemblez vos habits et toutes vos affaires, nous quittons le pays. Où allez-vous? Je ne sais pas. Amen. Mais nous partons de toute façon. Nous allons dans cette direction. Pliez bagages et partons. Alléluia. C'est là la vraie parole de Dieu. Que tenait-il de lui? La promesse de Dieu, la parole de Dieu. Nous la recevrons. Sors du milieu de ton peuple, Abraham. Ce qui ne va pas avec eux, c'est qu'ils doutent et sont incrédules. Et ils t'attireront dans le même pétrin. Sors du milieu d'eux. Et sépare-toi d'eux et vis pour moi. Qu'est-ce que cela? Laissez toute votre conscience, vos sens, tous ces signes-là, ouvrez votre pensée. Souvenez-vous que tout vient de moi. Venez vivre avec moi. Amen. Dieu appelle ce matin toute semence d'Abraham à vivre la même sorte de vie. Une grande bataille se déroule maintenant dans le monde entier. De quoi Dieu veut-il que ses enfants se séparent? De la vue, du goût, du toucher, de l'odorat? De l'imagination, de la conscience, de la mémoire, de la raison, des sentiments, de toutes ces choses. Ouvrez votre pensée et laissez entrer la parole et marchez avec la parole. Voilà ce que fait le véritable soldat. C'est de cette manière que se tiennent les étoiles. Le système solaire n'a pas changé. Le zodiaque, l'étoile du matin, se lève chaque jour pour se tenir à son poste exactement comme elle le fit quand la Terre fut créée. L'étoile du soir tient sa place, chaque étoile. La petite ours, elle aussi, se trouve en sa saison exactement là où elle doit être. L'étoile polaire demeure en place sans jamais bouger. Alléluia! Tout tourne autour de l'étoile polaire, toutes les autres étoiles, parce qu'elle est juste au centre de la Terre. Elle est comme Christ. Il se tient là et commande son armée, comme le fait un grand capitaine. C'est comme Moïse sur la montagne, levant les mains, pendant qu'Israël combattait pour s'ouvrir un chemin. Il demeurait là, les mains levées. Il garda les mains levées jusqu'au coucher du soleil. On dut l'aider à tenir les mains levées. Ce n'était que Moïse, mais il était un type de Christ. Pour être sûr que ses mains demeurent levées, elles furent clouées sur la croix. Alléluia! Et aujourd'hui, il a gravi les remparts de la gloire avec son vêtement sanglanté, jusque devant Dieu, à la droite de sa majesté. Et le combat pour chaque soldat est de frayer son chemin avec la parole de Dieu. Peu importe ce qui arrive pendant ce temps, il ouvre lui-même son chemin vers la liberté. Amen. C'est comme un poussin dans l'œuf. Quand serait-il s'il avait peur de jeter un coup d'œil au dehors? Quand serait-il s'il avait peur de picoter sa coquille? Qu'arriverait-il si le petit poussin ou le petit oiseau à l'intérieur de sa coquille avait peur de briser cette coquille? Qu'en serait-il s'il avait entendu une voix de l'extérieur dire « Ne frappe pas ta coquille comme cela, tu vas le blesser, tu vas te blesser. » Mais dans l'oiseau, la nature elle-même lui dit « Donne des coups de bec, fais un trou là-dedans. » Laissez toutes les vieilles organisations dire « Les jours des miracles sont passés, vous allez vous faire du mal, vous allez tomber dans le fanatisme. » Piquez contre cette coquille aussi fort que vous pouvez. Alléluia! Satan, va-t'en! Je veux sortir de là. Je ne demeurerai pas plus longtemps ici. Je ne resterai pas ainsi plus longtemps ici. Je ne veux pas demeurer plus longtemps sur ce vieux terrain du diable. Ce matin, je me fraye un chemin pour en sortir. Amen. Je suis un aigle. Amen. Alléluia. En ce qui concerne ce petit aigle,
Il prit son plus gros marteau et se mit à donner des coups de bec contre la coquille. Peu importe combien cette coquille était dure, il ouvrit son chemin au travers d'elle à coups de bec. La première chose qu'il fit alors fut d'étendre un peu ses ailes. Maintenant, il était hors de danger. C'est juste. Frayez-vous un chemin pour sortir. Comment le ferez-vous? Utilisez la dynamite du « Ainsi dit le Seigneur ». Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Bientôt, vous commencerez à sentir un peu d'air frais. Ainsi dit le Seigneur. Passez votre tête à l'extérieur. Ainsi dit le Seigneur. Poussez fort maintenant. Vous arrivez dehors. Il ne retourne jamais à l'intérieur de la coquille. Amen. Il est libre. Oh mon Dieu. Cette parole, une fois que tous ces sens, cette conscience et autres ont été déposés et qu'elle a été établie en nous et que la pensée lui a été ouverte, oh que Dieu nous fasse miséricorde. Il n'y a plus jamais rien qui puisse la servir à nouveau. Vous êtes libre. Celui que le Fils a rendu libre est hors de la coquille. Votre dénomination ne pourra plus jamais vous rappeler à elle. Le diable ne pourra jamais plus rien vous faire. Il siffle et rugit après vous, mais ne pourra jamais plus rien vous faire. Il siffle et rugit après vous, mais vous êtes sur la grande route, courant à toute vitesse. Oh, que c'est merveilleux! Marchez sur la voie royale comme un soldat de la croix qui est loin. Vous tous les aigles, en courant au but sur la voie royale, vous proclamez avec foi, Jésus est la lumière du monde. Certainement, ce sont des esprits exerçant un ministère envoyé de la présence de Dieu comme administrateur pour administrer quoi? Sa parole. Non pas quelques théologies, mais la parole de Dieu. Ils sont des esprits administrateurs envoyés de la présence de Dieu pour exercer un ministère. Ce sont des esprits administrateurs. Oh! Et souvenez-vous que s'ils exercent leur service en dehors de la parole, c'est qu'ils ne viennent pas de Dieu, parce que la parole est toujours confirmée dans les cieux. Toujours. Dans le ciel, Dieu veille sur sa parole. Et il n'envoie jamais un esprit pour exercer un ministère quelconque en dehors de la parole. Il n'envoie jamais un esprit avec un grand titre ecclésiastique et un col empesé et tout cela. Ces esprits qui disent, il est évident que les jours des miracles sont passés, nous savons tous cela. Non, non, cela ne peut venir de Dieu. Car c'est contraire à la parole. Amen. Il envoie quelqu'un qui exerce le ministère dans l'esprit de la parole. Amen. À ce sujet, j'ai encore 4 ou 5 choses desquelles je voudrais parler, mais pour le moment, je les laisse de côté. Je les reprendrai dimanche prochain. Satan et ses démons sont loin. Si ces esprits angéliques sont loin pour vous apporter la parole, pour que vous croyiez en la parole, or, avez-vous déjà vu un prophète? Un véritable prophète de Dieu, renier la parole de Dieu? Certainement pas. Qu'arriva-t-il quand les organisations existant de leur temps s'élevèrent contre eux disant c'est faux? Il sortit du milieu d'elles. Il resta seul en proclamant non, c'est vrai. Voyez ce qui se passe avec Miché ce jour-là. Ce petit fanatique, le fils de Jimla. Il y avait là 400 prophètes oint ou qui prétendaient l'être. Se tenant là, bien nourri, bien mis, bourré de connaissances et de titres universitaires, ces grands savants dirent, monte, toi, notre roi fidèle. Le Seigneur est avec toi. Cette ville nous appartient. Josué nous l'a donnée. Aussi, monte et prends-la. C'est tout à fait juste. Monte et prends-la. Mais que dit Josaphat? Vous savez que Josaphat dit, n'y en a-t-il pas un autre là-bas quelque part? Pourtant, il y avait déjà 400 prophètes. Alors pourquoi ne pas croire dans ces 400-là? Mais il dit, je suis sûr qu'il y en a encore un autre quelque part. Le roi lui dit, c'est vrai, nous en avons un autre. Il y en a un autre, mais je le hais. Oh, voilà l'homme que j'aimerais entendre. Vous voyez, il dit, fais-le venir, voyons ce qu'il va dire. Alors ils allèrent chercher Miché et lui dirent, écoute bien ceci, prépare bien ton sermon ce matin, parce que tu vas prêcher au roi. Tu vas prêcher à toute l'association pastorale de la Palestine. L'association pastorale au grand complet. Alors souviens-toi bien de ce qu'ils disent. Et toi, dis la même chose. Tu crois les mêmes choses. Mais avec lui, ils tombèrent plutôt mal. Cet homme avait justement abandonné tous ses vieux raisonnements. Il avait nettoyé les conduits, vous voyez, sa conscience, etc. Tu sais ce qu'ils feront? Si tu dis la même chose qu'eux, je ne serais pas surpris qu'ils fassent de toi un surveillant de district. Probablement qu'ils le feront. Ils te feront surintendant du district local, si tu es d'accord avec eux. Ces gens n'étaient pas de vrais hommes de Dieu, parce que ses conduits avaient été nettoyés tout dans sa conscience, et toute chose était nette. Sa pensée était ouverte à la parole de Dieu, et il ne voulait croire que la parole de Dieu. C'est cela, les esprits administrateurs, c'est un esprit administrateur. Il leur dit, je ne sais pas maintenant ce que je dirai, mais sachez bien ceci, c'est que je ne dirai que ce que Dieu m'ordonnera de dire. Ils attendirent cette nuit-là, et il eut une vision. Le matin suivant, je peux m'imaginer Michée parcourant les Écritures et disant, maintenant voyons un peu, est-ce que la vision, tous ces gens, il y a quelque chose qui ne joue pas quelque part, car c'est contraire à ce qu'ils disent. Mais que dit la parole? Nous savons que la parole est venue à Élie autrefois, parce qu'il était un prophète. Voyons quelle parole du Seigneur est venue à Élie et ce qu'il en dit. Les chiens lécheront ton sang, Jézabel. Les chiens la dévoreront à cause du juste Naboth. Lorsqu'il vit cela, il sut alors que sa vision était aussi en plein accord avec la parole de Dieu. Celle-ci aussi aurait son accomplissement pour le vieil Akab. Alors il partit de chez lui sans tarder et il dit, « Oh, Akab, monte !» Mais j'ai vu Israël. Voyez, il n'avait pas honte de raconter sa vision, parce que c'était la parole du Seigneur. Il savait qu'elle était parfaitement juste. Pourquoi? Parce qu'il avait ouvert son cœur et sa pensée à la parole de Dieu qui lui avait été révélée en retour. C'est pourquoi il savait que c'était vraiment la parole de Dieu. Maintenant vous direz, oh, si seulement je pouvais être un Michée. Vous le pouvez, vous l'êtes, vous êtes un Michée, un prophète. Comment faire pour cela? Ouvrez votre pensée. Qu'est-ce que j'essaye de vous donner ce matin? La parole du Seigneur, voyez-vous? Ouvrez votre pensée. Dites, maintenant je crois que je peux être guéri. Ah oui? Qu'est-ce donc? Est-ce la parole du Seigneur? Certainement que c'est la parole du Seigneur. Mais ceux-là qui disent, les jours des miracles sont passés, vous ne pouvez faire cela, ne vous en occupez pas. Mettez Dieu à la première place. La parole du Seigneur est venue, il l'a exprimée, elle s'est accomplie. Mais que fit Satan? Satan avait oint les autres. Satan oint ses serviteurs. Oh, c'est certain. C'est certain, il oint ses serviteurs. Et de quoi les oint-il? Il les oint d'incrédulité. Satan et ses démons oignent l'humanité de façon qu'elle ne croit pas à la parole de Dieu. Si vous voulez avoir la confirmation de cela, lisez Genèse 3-4. Retournons à ce passage et écoutons juste une minute. Voyons si telle n'a pas été sa première tactique. C'est la première chose qu'il fit. Et il n'a jamais abandonné cette même tactique. Il l'emploie toujours. Voyons si c'est bien cela. Or, il n'est pas en désaccord avec la parole. Il fait simplement qu'elle soit un peu mal interprétée. Vous savez, simplement comme s'il ne paraissait pas nécessaire de prendre toute la parole. J'ai la Genèse 3 et 4. Voyons si c'est bien comme je vous ai dit. Voilà, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point. Voyez comment il cite cela? Oh, nous croyons que les jours des miracles sont passés, nous ne croyons pas à ces histoires de gens qui reçoivent le Saint-Esprit comme ils le reçurent le jour de la Pentecôte. Oh, cela ne fait aucune différence. De quelle manière vous avez été baptisés? Cela ne fait pas de différence. Voyez comment fait le diable? Voyez-vous sa tactique? Eh bien, si le médecin vous dit que vous ne pouvez pas aller mieux, c'est une chose entendue. Or, il ne s'agit pas de discréditer le médecin ou de mettre en doute sa connaissance. Le médecin agit du point de vue scientifique. Le médecin a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver la vie de la personne qui s'en est allée. Elle dit, j'aimerais bien être comme Hope et Irène. Vous savez, elles ne sont jamais sorties dans le monde. Elle nous dit, le monde pose sa marque sur vous et j'ai une vulgaire, grossière apparence. J'ai cessé de me maquiller et tout le reste, mais j'ai une apparence si grossière, vulgaire. Même mon visage a cette apparence. Elle dit, j'ai l'air si vulgaire, elles ont un tel air de fraîcheur et d'innocence. Elle dit, j'aimerais n'avoir jamais fait cela. Je dis, ma chère Nelly, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Va et crois-le. Wen Blenso, beaucoup d'entre vous ici le connaissent. Il était un de mes amis intimes pendant des années et des années. C'était un buveur. Il vint ici avec mon frère Edward. Une fois qu'il était ivre, là en bas dans la rue, je l'ai ramassé parce que la police allait l'attraper. Je l'ai amené chez moi en haut. J'étais prédicateur et comme je n'étais pas marié, je vivais ici en haut chez papa et maman. Je le pris en haut, je le mis dans mon lit et j'ai dormi sur le canapé-lit. Il y avait tout un tas de Branham, vous savez, nous étions 10. Et comme il n'y avait que 4 pièces, nous étions un peu à l'étroit. Ainsi donc, j'ai dormi dans le canapé-lit. Je l'ai tiré ainsi et mis Wayne au lit avec moi. Il était ivre. J'avais dû le porter dans la maison et l'étendre là. Comme il était couché là, je lui ai dit, « Wayne, n'es-tu pas honteux de toi-même d'être dans cet état ?» Il dit, « Oh, Billy, ne me parle pas comme cela !» Et frère Branham imite un ivrogne qui parle, de l'éditeur. Posant ma main sur lui, je dis, « Je vais prier pour toi, Wayne, que Dieu te bénisse !» Il y avait peut-être une année, je pense, qu'il était sauvé. Tout à coup, une voiture s'arrêta devant chez moi, dans un grincement de frein, et quelqu'un se mit à frapper violemment ma porte. « Frère Bill, frère Bill !» Frère Branham frappe sur le pupitre, note de l'éditeur. J'ai pensé, « Mon Dieu, il y a quelqu'un en train de mourir !» Je courus à la porte en enfilant une vieille robe de chambre par-dessus mon pyjama après avoir couvert Wayne, et j'entendis la voix d'une femme. J'ai ouvert, et je vis une jeune fille qui me demanda, « Puis-je entrer ?» Je lui dis d'entrer, et j'ai allumé la lumière. Elle pleurait, me dit, « Billy, je suis perdu, je suis perdu !» Je lui demandais, « Qu'y a-t-il, Nelly ? As-tu une attaque, quelque chose au cœur ?» Elle me répondit, « Non, frère Bill, je descendais Spring Street, c'est vrai, frère Bill, c'est vrai, je ne pensais pas à mal, je ne pensais pas à mal. » Je lui ai dit, « Que se passe-t-il ? J'ai pensé, « Que vais-je faire maintenant ?» Vous comprenez ? Je ne savais quoi faire, je n'étais qu'un jeune homme, mais j'ai pensé. Elle dit, « Je suis brisé. » Je lui ai dit, « Sœur, assieds-toi tranquillement et raconte-moi ce qui s'est passé. » Elle me dit, « Eh bien, je descendais la rue et je passais devant Redman's Hall, c'est là qu'on danse le samedi soir. » Elle me dit, « J'avais acheté de l'étoffe pour me faire une robe. » Elle dit, « J'ai entendu de la musique et je me suis arrêté un instant en me disant, « Je vais mieux maintenant, cela ne me fera pas de mal si je m'arrête un instant pour écouter depuis ici. » C'est là qu'elle fit l'erreur. Elle s'arrêta un instant, elle écouta seulement, se disant, « Ça me fait penser à des choses. » Elle se dit, « Oh Seigneur, tu sais que je t'aime. » Tu sais que je t'aime, mais je peux bien me rappeler un peu le temps où Lee et moi gagnons toutes les coupes et tout le reste. Je me rappelle combien cette vieille musique avait le don de m'attirer. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous croyez cela? Pourtant, elle vous a fait vous arrêter là. Le diable ne demande rien de plus. Comprenez-vous? Combien parmi vous connaissent Nelly Sanders? Je pense que vous la connaissez tous, sûrement. Elle m'a dit, savez-vous ce que j'ai fait? Je me suis dit que peut-être je pourrais monter l'escalier et que là-haut, je pourrais rendre mon témoignage à quelques-uns d'entre eux. Vous voyez, là, vous êtes en plein sur le territoire du diable. Restez hors de cela. Fuyez tout ce qui vient du diable. Mais elle monta l'escalier jusqu'en haut. Elle se tint là quelques instants. Avant qu'elle ait eu le temps de comprendre ce qui se passait, elle se trouvait dans les bras d'un garçon. Bientôt, elle revint à elle et se mit à pleurer en pensant, « Maintenant, je suis perdu pour de bon. » J'ai pensé, « Oh, je ne connais pas trop bien ma Bible, mais je crois que Jésus a dit ceci en mon nom, ils chasseront les démons. » Wayne, qui était maintenant un peu dégrisé, s'était assis et regardait. Moi, je dis, « Démon, je ne sais pas qui tu es, mais je te dis ceci maintenant, cette jeune fille est ma sœur. Tu n'as pas le droit de t'emparer d'elle. » Elle ne voulait pas faire cela. Elle ne s'est arrêtée qu'un instant. Pourtant, c'est là qu'elle a fait la faute. J'ai dit, tu vas sortir d'elle. Tu m'entends? Qu'arrivera-t-il alors? Dieu m'en rendra témoignage au jour du jugement. La porte commence à s'ouvrir, à se fermer d'elle-même plusieurs fois avec bruit. Et soudain, Nelly me dit, Bill, regarde ici, regarde ici. Je dis, que se passe-t-il? Elle me dit, je ne sais pas. Je lui répondis, moi non plus. Et la porte continuait à battre. Je pensais, que se passe-t-il là-bas? Que se passe-t-il? Je me retournais alors vers Nelly et je dis, Satan, quitte-la, au nom de Jésus, sors d'elle. Aussitôt que je dis cela, il sortit de derrière elle comme une grande chauve-souris, à peu près grande comme cela. Elle avait de longs poils qui pendaient à ses ailes, à ses pattes. Elle s'élança vers moi de toute la force de ses ailes. J'ai crié, « Oh, Seigneur mon Dieu, que le sang de Jésus-Christ me protège cela. » Dans le lit, Wayne sursauta et regarda. Et voici que cette bête qui tourbillonnait dans la chambre va se placer derrière le lit. En un clin d'œil, Wayne fut hors du lit et s'enfuit dans la pièce d'à côté. J'ai reconduit alors Nelly chez elle et je suis rentré chez moi. Ma mère était entrée dans la chambre et secouait tous les draps, mais il n'y avait rien dans le lit. Qu'y avait-il ? Un démon était sorti de cette jeune fille. Que s'était-il passé ? Elle s'était arrêtée un moment, c'est tout. Ne vous arrêtez pas, même pas un moment. Lorsque Dieu fait pénétrer sa parole dans votre cœur, prenez cette épée et commencez à retrancher et à couper. Alléluia ! Je n'ai plus de temps à perdre pour quoi que ce soit d'autre. Je viens de franchir la barrière et je n'ai pas le temps de m'arrêter et d'en rester là. Le prophète avait dit, « Prends mon bâton et pose-le sur l'enfant. Et si l'on te parle en chemin, ne réponds pas. Si le diable dit, « Et là, je voudrais connaître ton sentiment sur... » Ne lui réponds même pas, va ton chemin. Le diable vous dira, « Rappelle-toi ceci, tu sais bien que lorsqu'un tel reçut le Saint-Esprit, cela lui fit presque perdre l'esprit. Ne lui adressez même pas la parole. Allez de l'avant, vous ne connaissez rien de un tel. Il s'agit de vous et de Dieu. » C'est vrai, restez avec Dieu. Il oint ses serviteurs. Il faut que je me dépêche maintenant. Dieu oint ses serviteurs. Le comprenez-vous ? Il faut que je saute quelques passages, mais j'aimerais tout de même dire ceci. Écoutez attentivement, chère sœur. Écoutez bien ceci. Nous pouvons discerner la tactique du diable. Comment cela ? J'ai ici une quantité de passages de l'Écriture dans les prophètes et ailleurs, où l'on voit Satan venir vers des hommes et leur parler. Tout au long de la Bible, on peut le voir agir toujours de la même manière. Il n'a qu'une seule tactique, faire en sorte que les gens ne croient pas à la parole de Dieu. Écoutez ceci, soldats de la croix, si vous doutez d'une seule parole de cette Bible écrite par Dieu, vous êtes désarmés. Croyez-vous cela, chers amis ? Vous êtes désarmés et vous devez vous rendre. Méduse que vous êtes, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Amen. Nous sommes en pleine bataille. Ce que Dieu dit est la vérité, mais toute parole d'homme n'est que mensonge. Voyez-vous? Il suffit que vous n'écoutiez qu'une seule parole du diable. C'est sa tactique. Et alors, vous êtes désarmé. Combien Ève écouta-t-elle de paroles de Satan? Une seule. À partir de ce moment, elle fut désarmée. Que fit le diable? Il s'engouffra dans son esprit, par la porte ouverte de sa pensée, et la voilà pervertie. N'est-ce pas vrai? Elle fut pervertie à la minute même où elle fut désarmée, lorsqu'elle douta de la parole de Dieu. Bien. Maintenant, nous discernons sa tactique. Les soldats de Dieu ont reçu l'ordre de revêtir toute l'armure de Dieu. N'est-ce pas vrai? Vous trouverez cela dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 13, si vous voulez le noter. Nous l'avons lu tout à l'heure. C'était le sujet de cette prédication. Revêtez toute l'armure de Dieu. Avez-vous encore quelques minutes? Retournons à ce passage pendant un petit moment. Lisons pour commencer dès le verset 10. Veuillez écouter attentivement. Nous allons voir ce qu'est l'armure de Dieu. Au reste, frère, maintenant je vais... Oh, il est presque midi moins 20 et je ne voudrais pas parler trop longtemps aujourd'hui. Mais peut-être que je ne pourrai plus vous donner qu'un seul message après celui-ci, puisque je vais repartir en voyage cet été. Et savez-vous pourquoi je fais ceci? Je vais vous le dire. L'autre nuit, j'ai fait un rêve. Je n'avais pas l'intention de vous le raconter, mais j'y pense tout le temps. Et peut-être qu'après tout, je pourrais bien vous le raconter. Après que le Seigneur m'en eut donné l'interprétation, j'ai rêvé que j'allais traverser une rivière pour partir en mission. J'étais là avec ma femme. Combien parmi vous connaissent George Smith, 6 secondes Smith? Son fils est agent de police dans cette ville. Pauvre George. Maintenant, c'est un alcoolique, mais en son temps, c'était un des meilleurs boxeurs. C'est lui qui m'entraîna avant même que je fasse partie des unions chrétiennes de jeunes gens. C'est lui qui nous entraînait. Il était un poids, Walter, d'environ 145 livres. Et c'était un boxeur très rapide. Il faisait ainsi avec son poing, frappait l'estomac et me plaquait contre le mur. Mais cela ne me faisait aucun mal. Ce n'était que de l'entraînement. Et l'autre nuit, j'ai rêvé que 6 secondes Smith, vous savez, ce n'était pas une vision, c'était qu'un rêve, j'ai rêvé qu'il y avait des jeunes gens qui venaient se battre avec lui, et lui était un homme de, voyons, j'ai 52 ans, il doit avoir environ 58 ans. Mais aucun de ces jeunes gens ne pouvait lui faire le moindre mal. Il voulait les attraper en faisant une sorte de nœud, et les déposait sur le sol en les y mettant d'une seule main. Et moi je pensais, c'est étrange. Dans mon rêve, ma femme était avec moi. Et je lui ai dit, c'est étrange. Tu sais, Méda, cet homme, c'était mon entraîneur. Elle me répondit, je me souviens que tu m'en as parlé. Je lui ai dit, parfaitement, il m'a bien entraîné, ce qui m'a permis de gagner 15 combats professionnels. C'est pour prêcher l'évangile que j'ai quitté ce métier-là. Soudain, la scène changea, et je me trouvais au bord d'une rivière, m'apprêtant à la traverser. En ce faisant, je m'approchais d'un bateau à moteur. J'ai regardé au-delà du bateau et j'ai vu deux de mes frères assis dans un petit canot se préparant à m'accompagner. Je leur ai dit, « Vous ne pouvez pas faire cela, frère. Il faut que j'aille tout seul. » Le gardien s'approcha et me dit, « Voici le bateau qu'il vous faut. » Et il me montra un beau canot blanc en plastique. Et je lui dis, « Non, merci, celui-là ne convient pas. » Il me dit, « Mais avec ce canot, vous pourrez remonter la rivière à une vitesse de 60 km à l'heure. » J'ai précisé alors, « Mais moi, ce que je dois faire, c'est d'aller là-bas, de traverser cette rivière. Comprenez-vous » Il me dit encore, « Allez donc avec ces deux frères. » Mais dis-je, « Ce ne sont pas deux bons bateliers. Ils n'ont pas de connaissances suffisantes dans le domaine. Ils se laissent entraîner par leur enthousiasme. Ils ne peuvent pas faire cela. S'ils y allaient, ils se noieraient. Ils ne peuvent tout simplement pas. » Le gardien me dit encore, « Vous ne voulez pas faire confiance ?» Je lui ai dit, « Écoutez bien ceci, je connais mieux les bateaux qu'eux, et je ne voudrais jamais me lancer dans une telle traversée dans un aussi petit bateau. Il faut quelque chose de plus grand. » Alors le gardien revint vers moi, et il me dit, « Je vais te dire ce que tu dois faire. Ces frères t'aiment, ils croient en toi, mais si tu essayes de faire cette traversée dans le bateau à moteur, ils essayeront de te suivre dans leur canot et mourront tous deux. Ils ne peuvent te suivre. » J'ai demandé alors, « Que dois-je faire ?» Et ce gardien me répondit, « Retourne là-bas. Dans toute cette région, il n'y a qu'un seul petit hangar. Il n'y en a qu'un seul. Vas-y, remplis-le de provisions. Ses frères resteront là pendant que tu es au loin. Mais il faut que tu y déposes des provisions. » Alors, je me suis mis à commander toutes sortes de choux, de navets, de radis, toutes sortes de choses que je me suis mis à entasser dans ce hangar. Puis je me suis réveillé. Je ne savais pas sur le moment ce que cela signifiait, mais je le sais maintenant. Vous comprenez? Maintenant, chers amis, nous emmagasinons de la nourriture. Nous vivons une vie où il faut marcher seul. Léo, vous rappelez la première fois que vous êtes venu ici, ce rêve que vous avez fait au sujet de la pyramide. Vous pensiez pouvoir y monter, mais je vous avais dit, Léo, aucun homme ne peut aller là-haut de lui-même. C'est Dieu qui doit l'y placer. Vous avez escaladé tous les royaumes de la terre qui pouvaient être escaladés, mais vous ne pouvez pas venir jusqu'ici, Léo. Redescendez et dites aux gens que cela vient de Dieu. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas en comptant sur. Ce sont tous mes frères et sœurs, et mon église, et toutes les autres églises, et les frères dans le monde entier. Je ne peux pas rester éloigné de l'église dispersée dans le monde. Quelqu'un m'a demandé, pourquoi allez-vous chez ces gens, ces trinitaires, ces ceci, ces cela? Ces unitaires, ces gens du nom de Jésus et tous les autres, pourquoi vous mêlez-vous à eux? C'est parce qu'ils sont des miens. Quoi qu'ils aient pu faire, ils sont des miens, ils sont mon assemblée. Lorsqu'Israël fit le mal, Dieu finit par dire à Moïse, éloigne-toi d'eux, je ferai de toi une nouvelle tribu. Mais Moïse s'interposa et dit, si tu détruis ton peuple, détruis-moi avec lui. Peu importe ce que le peuple avait fait, c'était le peuple vers qui Moïse avait été envoyé. Si l'on voit une lumière, ce n'est pas pour qu'elle brille là où il y a de la lumière, mais là où il y a les ténèbres. C'est là qu'elle doit être. Il faut continuer à marcher à la tête du peuple. Il faut rester avec eux, quelles que soient les conditions. Le mal, Israël faisait le mal de toutes les manières possibles. Il faisait le mal au point que Dieu voulait les abandonner. Mais Moïse, je m'étais toujours demandé ce qu'il avait poussé à agir ainsi. Mais vous comprenez, c'était l'Esprit de Christ qui agissait en Moïse. Nous sommes tous dans l'erreur. Mais lorsque nous étions dans l'erreur et que nous faisions le mal, il a pris notre défense. Quel que soit le mal dans lequel les gens se trouvent, ne les rejetons pas. Ne refusons pas de leur parler. Si nous pouvons gagner une âme, soyons prudents comme le serpent et doux comme la colombe. Et essayons de gagner toutes les âmes que nous pouvons. Et ce matin, je vais vous dire ceci. Emmagasinez des provisions. Emmagasinez de la nourriture, afin que vous ayez quelque chose à manger et de quoi vous réjouir. Installez des chambres froides pour la nourriture. Emmagasinez-la sur vos bandes magnétiques. Peut-être que je vais rester loin de vous pendant longtemps, mais quand je serai absent, rappelez-vous que tout ce que je vous ai dit est la vérité. Asseyez-vous dans le calme de votre chambre et écoutez. Vous comprenez? Cela, c'est la nourriture. Elle est emmagasinée dans la réserve. Je ne sais pas où mes voyages me conduiront, mais où que j'aille, lui sait où il me conduit. Moi, je ne le sais pas. Je ne fais que suivre ses ordres. Que disait-il donc? Écoutons attentivement. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les Baals et l'épée, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre le prince des ténèbres. Qui règne sur le monde? Le diable, c'est certain. Qui est à l'origine de toutes ces choses impies qui se passent dans ce monde, dans tous ces gouvernements? Tout cela vient du diable. C'est la Bible qui le dit. C'est le diable qui gouverne les États-Unis. C'est le diable qui gouverne l'Allemagne. C'est le diable qui gouverne chaque nation du monde. Je vais venir à mon sujet dans quelques instants. Nous allons voir si c'est bien vrai. Si tous les royaumes de la terre ont vraiment été, seront vraiment toujours gouvernés par le diable, et cela jusqu'au jour où Dieu établira son royaume. Mais je ne veux pas dire que tous les hommes appartiennent à Satan. Non! Dans les administrations des gouvernements, on peut trouver des hommes de Dieu. Dans quelques jours, il y en aura un ici même qui viendra avec frère Argan Brahit nous montrer un film. Il a travaillé dans la diplomatie pour environ 5 présidents successifs. C'est le frère Rove. Je pense qu'il sera ici dans la seconde semaine d'avril. Le frère Neville vous l'annoncera en temps voulu. C'est un homme de grande valeur. Il m'a dit qu'il pouvait parler, je crois, 8 langues. Mais lorsqu'il reçut le Saint-Esprit, il n'y en avait parmi elles aucune avec laquelle il put parler au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur lui en donna une autre avec laquelle il put lui parler. Il lui en donna une nouvelle qu'il n'avait jamais parlé auparavant. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi vous êtes des soldats. Alors écoutez bien ceci, avant que nous commencions la ligne de prière. C'est pourquoi prenez toutes, et non pas seulement une partie, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. C'est le jour dans lequel nous vivons. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme. Amen. Comprenez-vous cela? Chers amis, lorsque vous avez fait tout ce que vous pouviez pour être affermi, alors restez ferme et ne quittez plus votre position. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins. Écoutez bien ceci, où cela se met-il? Ayez à vos reins. Qu'est-ce que les reins? C'est le milieu du corps. La vérité pour ceinture. Qu'est-ce que la vérité? C'est la parole de Dieu, c'est vrai. La cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Où que vous alliez en tout temps, en tout lieu, que vos pieds soient chaussés de l'évangile. Vous comprenez? Prenez par-dessus tout cela, par-dessus tout, le bouclier de la foi. C'est lui qui détourne les flèches. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut pour protéger votre âme, votre pensée. Le casque protège la tête qui est le lieu où réside l'âme, la pensée. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Comment mettrez-vous ce casque? Quel est son effet? C'est une protection. De quelle matière est fait le casque? D'airain. Les reins ne peuvent être trempés, il est plus dur que le fer. Un casque d'airain, qu'est-ce que cela? C'est le salut. C'est connaître ceci. Ma guérison vient de Dieu. Mon salut vient de Dieu. Mon esprit est en accord avec sa parole. Non pas avec les idées de l'Église, mais avec la parole. Amen. C'est cela. Couvert d'une protection. Prendre le casque du salut, de la délivrance, mettre ce casque et aller de l'avant. Oh, c'est cela que nous devons faire. L'armée de Satan, il faut que je me dépêche, mais je dois encore vous parler de cela. L'armée de Satan apporte la maladie. Satan est comme cela. Il est un destructeur. Satan, son royaume tout entier n'est que maladie, mort, douleur, frustration et tourments. C'est cela, Satan. Dieu, lui, est la vie, la foi, la joie, la paix au milieu de nous. Vous voyez? C'est cela, ces deux grandes armées qui s'affrontent. Elles combattent. Elles combattent ici même, dans ce bâtiment, en ce moment même. Elles se battent avec vous jour après jour. Avec toutes ces armées, Satan vous suit pas à pas. Ce Goliath immense, majestueux comme un roi, solennel comme un sacrificateur, il essaye de vous terroriser jusqu'à la mort. Mais si Dieu est avec vous, vous êtes fortifié par l'Évangile. Amen. Par la parole de vérité qui fait vos reins. Gloire à Dieu. Prédicateur, c'est de cela qu'il s'agit. Revêtez le casque du salut, l'armure de la foi, brandissez l'épée. Satan, je viens à ta rencontre. Tu viens vers moi au nom de la science, de la culture, des organisations, au nom de ceci, au nom de cela. Mais moi, je viens vers toi au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Je te chasse, va-t'en. La mort elle-même ne peut pas subsister. Vous la battez en brèche, c'est vrai. L'armée de Satan apporte la maladie, mais l'armée de Dieu a pour mission de la vaincre. Amen, c'est vrai. Chaque fois que Satan vous charge quelques fardeaux, l'armée de Dieu le chasse. Amen. Chasser, rejeter, précipiter, c'est la tactique de Dieu. Satan a envoyé son armée destructrice pour répandre l'incrédulité en la parole de Dieu et établir un royaume meilleur que celui établi par Michel, mais Dieu l'a rejeté. La méthode de Dieu est de rejeter, de chasser le mal, de chasser le raisonnement, de chasser la lassitude, de chasser les maladies, de chasser le péché. Amen. Vous êtes ressuscité en Jésus-Christ, assis dans les lieux célestes, et maintenant tous les démons sont sous vos pieds. S'il essaye de relever la tête, vous savez, vous êtes mort, votre vie est cachée. Qu'est-ce qui est mort? Vous êtes mort à vos propres sens, à vos propres sentiments. Vous êtes mort à votre conscience propre, votre volonté humaine propre, vous allez dire, oh, je pense ceci ou cela. Mais vous êtes mort à vos propres raisonnements, mort à toutes ces choses. Et vous êtes enseveli au nom de Jésus-Christ et ressuscité avec lui. Où qu'il soit, vous y êtes aussi. Que se passa-t-il lorsque l'un de ces incrédules entra au ciel? Dieu le chassa. Mais que dit-il aux soldats ressuscités en Christ? Quand le diable s'approche, chassez-le, mettez-le dehors. Jésus entraîna son armée et l'envoya aux extrémités de la terre, disant, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. En avant, soldats chrétiens, marchez au combat, portant la croix de Jésus, allez de l'avant. Je suis crucifié avec lui, pourtant je vis. Mais ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. La parole va de l'avant. Dieu se fraye un chemin avec son épée tranchante, son épée à deux tranchants. C'est lui qui blesse et mutile le malin. Lorsque le général Grant prit Richmond, il n'est pas surprenant que cette pauvre femme fut saisie par l'inspiration à sa vue et se mit à chanter le cantique suivant. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Il foule aux pieds la cuvée de la vendange de sa colère. Il a lâché son tonnerre et son épée rapide comme l'éclair. Son armée est en marche. Amen. Comment Grant prit-il Richmond? Simplement lorsqu'il l'attaqua. Amen. C'est ainsi qu'il prit Richmond. C'est ainsi que les soldats de Dieu viennent à bout du péché. Lorsqu'ils s'y attaquent. Amen. C'est ainsi qu'ils surmontent leurs doutes, leurs terreurs et tout le reste. Quand l'une de ces choses s'élève contre eux, Ils l'abattent avec leur épée. Ils l'éloignent de leur chemin. Oh mon Dieu, c'est vrai. Dieu les a rejetés comme il l'a fait dans le ciel. Notre glorieux commandant en chef nous a montré comment il fallait faire. Frère Robertson, frère Funk, vous autres, les vieux vétérans qui êtes ici, vous savez ce qu'est un vrai chef. Lorsque j'étais qu'un enfant, un incendie éclata dans la maison Falls. Les pompiers de Jeffersonville étaient là, ils essayaient de l'éteindre. Leur chef marchait tranquillement, de ci, de là, leur disant « Jetez un petit peu d'eau par ici, jetez un petit peu d'eau par là. » Frère Branham imite le bruit de l'eau qui coule d'un petit tuyau, note de l'éditeur. Ensuite arrivèrent les pompiers de Clarksville. « Jetez un petit peu d'eau par ici, jetez un petit peu d'eau par là. » Frère Branham fait le même bruit, note de l'éditeur. Et l'incendie qui fait rage pendant ce temps. Mais alors on a placé ceux de Louisville. Ceux-là étaient des pompiers entraînés. De loin, on entendit leurs sirènes. Mais les chefs de nos petits groupes de pompiers locaux, avec leur « jetez un petit peu d'eau par ici, jetez un petit peu d'eau par là », c'étaient des hommes sans expérience. Mais ceux de Louisville, sitôt leurs camions arrêtés, qui donc était déjà à la pointe de la grande échelle, leur capitaine, quand l'échelle monta, il monte avec elle. Lorsqu'elle atteignit la fenêtre, il saisit sa hache, la jeta dans la fenêtre et dit « Allons-y !» Le feu fut éteint en quelques minutes. Voilà un capitaine. Celui qui dit « Jetez un peu d'eau par-ci, par-là » n'est pas un vrai capitaine. Le vrai capitaine, c'est celui qui dit « Allons-y !» Amen. Il a ouvert la voie. Il nous a montré ce que nous devions faire. Je pensais, ces pompiers bien entraînés ont éteint le feu en quelques minutes. Pourquoi cela? Parce qu'ils avaient un capitaine qui savait ce qu'il faisait. Chers frères, vous pouvez parler autant que vous le voulez de votre théologie, de vos dénominations faites de main d'homme et de vos organisations. Amusez-vous bien avec tout cela. Moi, j'ai un capitaine qui m'a montré ce qu'il fallait faire. Vous dites, si je peux toucher, quelle folie. Dans Luc chapitre 4, notre capitaine nous a montré ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas le temps de le lire, mais lisez-le vous-même en commençant au verset 1. Vous verrez qu'il n'a jamais dit « Établissez une grande organisation avec des diacres, des prêtres, des évêques, des cardinaux, etc. » Il n'a jamais rien dit de semblable. Satan va vers lui pour le tenter et lui dit « Tu as faim? Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Mais lui répondit « Il est écrit !» Satan lui dit encore « Je vais te transporter sur cette montagne, te montrer quelque chose. » Mais Jésus répondit « Il est écrit !» Je te donnerai ceci ou cela si tu... « Il est écrit !» C'est ainsi que notre capitaine nous a montré ce que nous devions faire. Comment devons-nous faire, frères et sœurs? Il est écrit. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Il est écrit. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Comment cela? Il est écrit. C'est cela l'ordre du capitaine. Il est écrit. Quiconque entend mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est l'ordre, il est pour le soldat, il nous donne la manière de faire, c'est notre artillerie. Que fit-il? Il courut affronter Goliath. Comment David a-t-il montré à l'armée comment il fallait faire? Comment David montra-t-il à Israël comment il devait faire? David veut dire bien-aimé et sauveur, vous voyez? Comment fit David? Il dit, voici ce qu'il faut faire. Croyez la parole du Seigneur. Goliath sortit à sa rencontre et lui dit, tu sais ce que je vais faire? Je vais t'épingler au bout de cette lance et te donner en pâture aux oiseaux. Mais David lui répondit, tu viens vers moi en tant qu'organisation? Tu viens vers moi avec ta science moderne? Tu viens vers moi avec ta grande épée de 14 pieds? Tu viens vers moi avec un casque d'airain, un bouclier si lourd que je ne pourrais même pas le soulever? Tu viens à ma rencontre avec ton entraînement de guerrier? Tu viens vers moi avec tes diplômes et tes titres. Tu viens avec toutes ces choses. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et aujourd'hui même, je retrancherai ta tête de tes épaules. Amen. Ce gamin qui osait s'attaquer à un géant. Mais il savait sur quoi il s'appuyait. Le reste d'Israël tremblait, disant, pauvre petit. Pendant ce temps, Goliath s'approchait en criant, tu vas voir ce que je vais te faire. Mais David avait la foi en Jésus. Cinq roches, cinq pierres. Il ne prit qu'une seule petite pierre, il la fit tourner dans sa fronde. Le Saint-Esprit s'empara aussitôt de ce caillou et le conduisit droit au but et Goliath tomba. C'est ainsi que cela doit se faire. C'est ce que fit Jésus lorsqu'il dit, vous allez partir pour les champs de mission. Si vous voulez savoir comment vaincre ces démons, je vous le montrerai. Satan dit, je viens à ta rencontre, c'est Goliath. Je vais te montrer ce que je peux faire. Tu as faim? Si tu es le fils de Dieu, je vais te lancer un défi. Tu prétends être le fils de Dieu? Je te lance un défi. Si tu es le fils de Dieu, tu as le pouvoir de le faire. Mais Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oh, voilà comment fit le capitaine. Satan le transporta au sommet du temple et lui dit, si tu te jettes en bas, tu sais, il est aussi écrit. Jésus lui répliqua aussitôt, d'accord, mais il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Avez-vous pris garde au nom qui se donne à lui-même, le Seigneur ton Dieu? Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est ce qui est écrit. Comprenez-vous? Oh mon Dieu, que fit-il donc? Il a vaincu Satan par la parole de Dieu. La tactique du diable est de vous conduire à douter de la parole de Dieu, mais notre capitaine nous dit de prendre la parole de Dieu et d'agir en conséquence. En mon nom, ils chasseront les démons. Satan, leur capitaine, vous savez, certaines de ces dénominations essayent de vous faire croire que le diable a le pied fourchu, une grande queue et toutes sortes de bêtises du même genre. Ne croyez pas tout cela. Il n'est pas du tout comme cela. Oh non, c'est un rusé. Il a fort belle apparence. Ne croyez pas à toutes ces sornettes. Ils ne disent cela que pour vous effrayer. Le diable n'est pas ainsi. D'abord, il n'a pas de pied fourchu. J'en doute fort. En effet, c'est un esprit. Le diable est un esprit. Il n'a pas le pied fourchu et tout le reste, comme ils essayent de le représenter. Oh non, il est savant. Oh, frères et sœurs, c'est un savant. Un homme instruit dans toute la sagesse de ce monde, comme il l'a toujours été, parfaitement. Et il est beau. Son armée, il l'a organisée avec toute la sagesse de ce monde, et ceci à un point tel que, chers frères, n'essayez pas de vous y attaquer avec vos propres paroles. Vous aurez tout avantage à savoir de quoi vous parlez lorsque vous rencontrerez un de ces soldats qui viendra vous affirmer que les jours des miracles sont passés. Oh, il n'a pas le pied fourchu. Il est bien élevé. Il sort d'un séminaire, mes frères. Je veux dire qu'il est intelligent, qu'il a toutes sortes de diplômes, de titres, tout le reste, vous comprenez? Il est d'une intelligence supérieure, rusé, bien sûr qu'il l'est. Il est le serpent, le plus rusé de tous. Il est bien coiffé, bien habillé, il n'y a pas un seul faux pli à ses vêtements. Il est élégant, sage et rusé comme personne, c'est vrai. Aussi, n'essayez pas de jouer au plus fin avec lui, à moins de savoir de quoi vous parlez, c'est vrai. Mais nous connaissons sa vieille tactique. Nous savons ce qu'il essaye de faire. Il essaie de nous faire douter de la parole de Dieu. Il n'a pas le pied fourchu, oh non. Nous voyons donc que s'il n'a pas le pied fourchu, il doit être autrement fait. Il est élégant, rusé. Il a de la sagesse, de l'instruction. Il est organisé, oh frère. Et il a son armée. Il y a bien des années, l'armée allemande, des étrangers, attaquèrent la Suisse. Leur armée était compacte comme un mur de briques. Chacun de ces soldats, bien entraînés, portait devant lui une lance de 8 ou 10 pieds. C'est ainsi qu'ils s'attaquèrent à la pauvre petite Suisse. Et comment ces hommes étaient-ils armés? De faucilles, de bâtons, de cailloux. Mais ils se tinrent là, et ils les attendirent de pied ferme. Derrière eux, dans les montagnes, il y avait leur village et leur foyer. Et l'armée suisse descendit à la rencontre de ses ennemis. Pourtant, les Suisses ne leur avaient rien fait, mais eux venaient pour s'emparer de leur terre. Que fit donc cet enfant? Ce n'était qu'un gamin. Satan aurait bien voulu lui ôter la vie, c'est certain. Mais le temps n'était pas encore venu, voyez. Les Suisses ne leur avaient rien fait, c'étaient de braves gens. Mais ils descendirent là, ils essayèrent de défendre leur foyer. Au bout d'un certain temps, un homme se leva parmi eux, Arnold von Winkelried. Cette petite armée fut bientôt encerclée. Chacun se demandait, mais que pouvons-nous faire? Ils étaient entourés d'un océan d'hommes aguerris. Il y en avait partout. C'est ainsi que Satan a fait. Son armée est bien entraînée. Chaque lance est pointée en avant. Chaque soldat marche au pas. Une, deux, une, deux. Ils se mettent à attaquer cette petite armée. Ils n'avaient qu'à avancer, à cueillir ces petits soldats à la pointe de leurs sabres et à les transpercer de leurs lances. L'armée suisse aurait disparu. Il n'en serait rien resté. Mais juste là derrière, dans les montagnes, il y avait leur foyer, tous ceux qu'ils aimaient. Leurs femmes seraient enlevées ou violées, leurs fils et leurs filles mis à mort. leurs maisons incendiées, leur nourriture pillée, leur bétail emporté. Voilà ce qui les attendait. Mais alors, que se passa-t-il? Un homme, Arnon von Winkelried, eut soudain une inspiration. Il dit, « Homme suisse, aujourd'hui, je meurs pour la Suisse. Amen. Aujourd'hui, je donne ma vie pour la Suisse. » Ils lui demandèrent, « Que vas-tu faire ?» Il leur dit simplement, « Suivez-moi et battez-vous de toutes vos forces. » Alors il s'avança, il jeta son épée, ce petit bout de bâton qui tenait dans sa main. Il étendit les bras, il se mit à courir de toutes ses forces vers l'ennemi, en criant, « Ouvrez la voie à la liberté !» Il se mit à courir de toutes ses forces vers l'ennemi, et aussitôt qu'il les eut atteints, il se jeta sur leurs lances qui le transpercèrent au moment où il les empoignait à plein bras. Il mourut là, mais auparavant il leur avait dit, « J'ai là-bas une petite maison, une femme et quelques enfants. Cette maison, je viens de l'acheter, je les aime tous, mais aujourd'hui, je meurs pour la Suisse. » Il leur dit, « Je donne ma vie pour sauver ce peuple. » C'était un héros. Ils n'eurent plus de guerre depuis lors. Son acte héroïque mit fin à la guerre. Cette manifestation d'héroïsme sema la déroute dans l'armée ennemie et elle s'enfuit dans la confusion. Les Suisses la bombardèrent de rocs qu'ils firent dévaler au bas des pentes où elle devait passer et la chassa du pays où elle ne revint jamais plus. Il y a des siècles que cela est arrivé, vous comprenez? Ce fut un glorieux fait d'armes. Mais, frères, un jour, lorsque l'ignorance, la superstition, les doutes, les frustrations et la terreur eurent fermé tout issue au peuple de Dieu, il y eut quelqu'un nommé Jésus-Christ qui dit, « Aujourd'hui, je meurs pour le peuple. » C'est vrai. Qu'a-t-il dit à son armée? « Suivez-moi et combattez de toutes vos forces. Si vous avez un gourdin, combattez avec un gourdin. N'ayez pas peur. Si vous avez un bâton, combattez avec votre bâton. Si vous avez un caillou, combattez avec ce caillou. Combattez avec ce que vous avez. » C'est ce que notre capitaine nous dit encore aujourd'hui. « J'ai pris la parole de Dieu. » Et j'ai vaincu le diable et sa puissance. Il l'a taillé en pièces, amen, avec sa parole. Quoi que vous ayez, même si vous n'avez qu'une seule parole, je suis l'Éternel qui te guérit, taillez-le en pièces. Suivez votre capitaine, amen, suivez-le, parfaitement. Il l'a taillé en pièces. Satan, avec tous ses magnifiques royaumes, avec sa beauté qui augmente chaque jour, avec tout son modernisme, toutes ces choses à la mode, n'a rien à faire avec nous, c'est vrai. Il est encore et toujours le plus rusé de tous les animaux. Jésus a dit que les enfants de ce monde sont plus rusés que les enfants du royaume de Dieu. Nous vivons dans les jours où ces deux grandes armées sont en marche l'une vers l'autre. Il faut que je me dépêche maintenant. Nous vivons des temps où la maladie et toutes sortes de choses ont frappé le monde. Et cela à un point tel que la médecine est impuissante, que plus personne ne sait quoi faire. Et l'armée, la petite armée de Dieu, est acculée peu à peu dans une impasse. Frère, il est grand temps que soit suscité un autre Arnold von Winkelried. L'heure est venue où doit se lever un autre homme de Dieu. Il est grand temps qu'Élie apparaisse. Il est grand temps que quelque chose se passe. Vous, l'armée de Dieu, rentrez en vous-même. Ne vous arrêtez pas un seul instant pour écouter ce que Satan a à vous offrir par le canal de vos sens. Rappelez-vous simplement ceci, c'est que la parole de Dieu ne peut faillir. Ces deux grandes armées, si l'ennemi déferle comme un fleuve puissant, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a dit qu'il ferait? Il dresserait un étendard contre lui. Êtes-vous un de ces étendards? Parfaitement. Jacques 4:7 nous enseigne, je n'ai pas le temps de le lire maintenant, à résister au diable, et il nous dit que le diable ne s'en ira pas simplement, mais qu'il fuira loin de vous. Résister au diable. Comment allons-nous résister au diable? De la manière que nous a enseigné notre capitaine. Prenez la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que vous résisterez au diable. Notre glorieux capitaine nous a montré simplement comment faire. Pour clore, je voudrais encore dire ceci. Ce vieux démon, vous connaissez bien son effronterie et son audace. Vous vous demandez s'il attaquera un enfant? Il attaquera n'importe qui. Il a bien attaqué Jésus-Christ lui-même. Il l'a sauvagement attaqué 3 fois de suite. Saviez-vous cela? Satan n'a pas attaqué qu'une seule fois. Il commencera par vous attaquer par la maladie, puis il reviendra à la charge en vous disant « Les jours des miracles sont passés, tu ne peux pas être guéri, il n'y a rien à faire. » C'est vraiment ainsi qu'il fait. Il a attaqué Jésus 3 fois. 3 fois, il attaqua sauvagement Jésus avec son incrédulité en la parole de Dieu. Jésus était la parole. Mais Satan ne croyait pas à cette parole. Si tu es, l'ennemi nous attaque parfois férocement. Il vient disant, si tu es le Fils de Dieu, fais-moi un miracle. Montre-moi ce que tu sais faire. Frère, par 3 fois, il fut attaqué sauvagement. Si tu es. Mais que fit Jésus? Jésus était la parole de Dieu. Il était la parole. Et Satan attaquait la parole. Oh, gloire à Dieu! Je sens que je pourrais encore prêcher sur ce sujet. Jésus est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a habité, elle a été faite chair et a habité. Jésus était la parole. Que fit-il? Il tailla le diable en pièces. Oh mon Dieu! Il faut bientôt que je m'arrête. Que fit Jésus? Il était la parole. Et c'est avec la parole qu'il éteignit les traits enflammés de Satan. Satan avait envoyé ses troupes de choc contre Jésus, la parole. Mais Jésus prit cette parole et le tailla en pièces. Alléluia, c'est vrai. Il le tailla en pièces et le vainquit par la parole. Discernez-vous sa manière d'attaquer? Écoutez attentivement ce que je vais dire pour conclure. Quelle est son arme? L'incrédulité en la parole de Dieu. C'est comme cela qu'il vous attaque. Pouvez-vous comprendre maintenant quelle est cette bataille qui est la plus grande qui ait jamais été livrée? Il n'y a que 2 forces en présence, Satan et Dieu. Et quelle est l'arme que Satan emploie contre vous? Il essaye de vous faire douter de votre propre arme. C'est ainsi qu'il vous désarme. Maintenant, veuillez encore écouter quelque chose très attentivement. S'il peut arriver à vous faire croire que votre arme n'est pas assez forte, qu'elle est insuffisante, cela revient à dire qu'il vous a désarmé. Oh, frère Neville, j'espère que vous ne douterez jamais de votre arme. Parce qu'en vous amenant à douter de votre arme, il vous désarme. Si vous la déposez, le combat est fini pour vous. Vous êtes vaincu. Tenez fermement cette arme. Ne la déposez jamais. Nous voyons l'incrédulité de Satan. Je vais encore vous dire quelque chose. La Russie. Je dis ceci spécialement à l'intention des vétérans et de ceux qui s'attachent à étudier la Bible. Pourquoi vous troublez-vous? Pourquoi criez-vous contre la Russie? M'avez-vous déjà entendu vous dire de construire des abris contre les bombes? Pourquoi vous troublez-vous au sujet de la Russie? La Russie n'est rien du tout. Elle ne gagnera pas de guerre. Elle ne conquérera pas le monde. Le communisme ne conquérera pas le monde. Pourquoi les gens ont-ils tellement peur? La parole de Dieu peut-elle faillir? Écoutez ceci. Je le dis parce que cela est enregistré. Je parle au monde entier, ou à qui que ce soit qui recevra cet enregistrement. Et vous qui êtes ici dans cette salle, quoi qu'il puisse m'arriver, croyez ce que je vais vous dire. La Russie, le communisme, ne conquérera rien du tout. La parole de Dieu ne peut se renier. C'est Rome qui conquérera le monde. Prenons la vision de Daniel. C'est la parole de Dieu. Toi, roi Nebuchadnezzar, tu es la tête d'or, Babylone. Ensuite, il y aura un royaume moindre que le tien, l'argent, ce sont les Médo-Perses. Puis il y aura la Grèce, avec Alexandre le Grand. Et enfin, ce sera Rome. Il n'est pas parlé du communisme. C'est Rome qui conquérera le monde. Jésus-Christ est né dans l'Empire romain. Et lors de sa première venue, il a été persécuté par l'Empire romain. Et avant sa seconde venue, son message est persécuté par la dénomination romaine, qui est la mère de toutes les autres. Et quand il reviendra, il balayera cet empire romain de la surface de la terre, comme le savent les Juifs, qui attendent depuis toujours sa venue, afin qu'il puisse anéantir l'empire romain. Nous voyons se réunir ensemble la hiérarchie catholique et toutes les dénominations du monde entier et former peu à peu une grande organisation, la Confédération mondiale des Églises, qui est en train de s'établir. Ce n'est pas de la Russie qu'il s'agit, mais de Rome. Ainsi dit le Seigneur. Montrez-moi un passage des Écritures où ce n'est pas Rome, mais le communisme, ou quoi que ce soit d'autre qui prenne le pouvoir. Les Médo-Perses ont-ils succédé à Nebuchadnezzar? Parfaitement. Est-ce bien la Grèce qui est venue ensuite? Oui. Après eux, n'est-ce pas Rome qui a pris la relève? Ne s'est-elle pas divisée en 10 puissances dans l'Empire ottoman? Eisenhower, ce qui signifie fer, et Khrouchtchev, ce qui signifie argile, ne se sont-ils pas rencontrés ici même? Et Khrouchtchev n'a-t-il pas ôté son soulier et frappé sur la table? Frère Branham frappe sur le pupitre, note de l'éditeur. Pour sceller leur rencontre, il a fait cela pour que tout le monde comprenne bien ce qu'il voulait dire. Mais que se passe-t-il avec les gens aujourd'hui? Que devient votre foi? Pourquoi ne croyez-vous pas que la parole de Dieu est la vérité? Que se passe-t-il aujourd'hui avec ces prédicateurs? Ils veulent tous combattre le communisme. Mais le communisme n'est rien du tout. Le diable est en train de tisser sa toile juste sous leur nez et ils ne s'aperçoivent de rien. C'est Rome, l'esprit de dénomination, et Rome est la mère des dénominations. La Bible nous dit qu'elle est une prostituée et que ses filles sont des prostituées comme elle, des prostituées contre Dieu et contre sa parole. Soldats de la foi, saisissez-vous de la parole. Restez avec la parole. Un jour je vais mourir, mais cette parole ne peut mourir. Et vous, jeunes gens, si ces choses n'arrivent pas dans ma génération, vous, vous les verrez. Avez-vous entendu les nouvelles ce matin? Madame Kennedy est allée rendre visite au pape. Et qu'est-ce que le pape a dit? Vous voyez? Toutes les religions du monde, peut-être que nous examinerons cela plus en détail dimanche prochain. Vous voyez? Ne vous inquiétez pas au sujet de la Russie. La Russie n'est qu'un petit caillou sur la plage. Ne vous inquiétez pas au sujet du communisme. Soyez attentifs à ce qui se passe à Rome, où se prépare l'union de toutes les églises. Dans la parole, il n'y a aucun écrit qui nous montre que ce soit le communisme qui doit gouverner le monde. Moi, je ne m'occupe que de la parole, en dépit de tout ce qui peut se passer dans le monde. C'est la parole que je crois. C'est Rome qui est en train de s'emparer du monde. Et Rome est la mère des organisations. Il n'y a jamais eu d'organisation jusqu'à Rome. Elles sont toutes issues de Rome. C'est la Bible qui le dit. Rome est la mère des prostituées. Oh, je pourrais passer une demi-journée sur ce sujet. Mais il faut que j'avance. Quand l'ennemi nous attaque, oh, pourquoi ne vous joindriez-vous pas à notre organisation? Qu'allez-vous faire? Reculer? Faire des compromis? Ce n'est pas ce que ferait un vrai soldat. Alors, que ferons-nous? La pensée, que la pensée qui était en Christ, n'est-ce pas ce que dit la Bible? Ayez en vous la pensée de Christ. Quelle était sa pensée? Rester avec la parole du Père, et avoir ainsi le pouvoir de vaincre en tout temps l'ennemi. Maintenant, si l'ennemi vous attaque, essaye de vous dire de faire ceci ou cela, qu'allez-vous faire? Restez avec la parole, c'est vrai. Et alors, qu'allez-vous faire? Prenez la parole. Qu'est-ce que la parole? La Bible nous l'a dit, nous venons juste de le lire, car l'Esprit de Dieu est la parole. Vous comprenez? Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit qui passe au travers de votre pensée et qui entre en vous? L'épée de cet Esprit est la parole de Dieu. Avec quoi l'Esprit combat-il? Avec quoi le Saint-Esprit combat-il? Avec des sentiments? Avec des sensations? Non! Avec la parole! Gloire à Dieu! Que nous dit-il ici? La parole, la parole! Disons cela tous ensemble. La parole, la parole! L'Assemblée répond, la parole, note de l'éditeur. L'Esprit combat avec la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu s'est avancé vers le diable et lui a répondu, il est écrit, amen, il est écrit, et le diable s'enfuit. Que devons-nous faire? Prendre l'épée qui est la parole de Dieu et la tenir comment? Dans une main pleine de foi, une main forte et pleine de foi qui tient cette épée à deux tranchants. La Bible l'a dit dans Hébreux 4, c'est une épée à deux tranchants qui coupe en allant et en revenant. Frère, qu'avait-il fait? Il a pris la parole. Prenez l'Esprit, laissez l'Esprit entrer dans votre cœur, ouvrez votre pensée, dites, ta parole est la vérité. Sœur, c'est aussi pour vous, ta parole est la vérité. Je ne m'occuperai plus de mes sentiments ou de ce que disent les autres. Je m'arrête là, je ferme toutes les autres voies, toutes mes frustrations, tous mes doutes, toute mon incrédulité, tous mes sentiments, toutes mes maladies, tout ce qu'il y avait auparavant. Je balaye tout cela, je passe par-dessus tout cela, et je viens sans faire de détour vers ton esprit. « Oh, Seigneur, viens. Tu m'as dit que tu m'affranchirais, que tu ferais de moi un homme libre. Tu es libre, mon fils. Alors j'ouvre mon cœur et ma pensée. Entre, Seigneur Jésus. Et maintenant, saisissez par la foi l'épée de l'Esprit. Le « Ainsi dit le Seigneur ». Criez « Alléluia !» « Amen !» Et maintenant, abattez chaque ennemi qui est devant vous. Abattez chaque ennemi. Si un vieil esprit veut vous faire sentir que, retranchez-le avec la parole de Dieu. La joie du Seigneur est ma force. Arrière de moi, frappez-le d'un grand coup et jetez-le dehors par la parole. Que ce soit un démon, un ennemi, une maladie, n'importe quoi d'autre, prenez la parole et brandissez l'épée et frappez. S'il n'est pas abattu du premier coup, frappez, frappez encore, frappez jusqu'à ce que vous lui ayez fait une brèche. Faites comme le poulet ou ce petit de l'aigle. Ouvrez-vous un passage à travers cette vieille coquille de la maladie. Taillez-vous un chemin à la pointe de votre épée et après vous crierez « Alléluia !» Où est l'ennemi suivant ? Amen. C'est cela à se battre. Voilà comment doit être un bon soldat. Voilà comment est le soldat de la croix. Jetez bas tous vos ennemis. Pourquoi cela? Parce que nous sommes la semence royale d'Abraham. Lorsqu'Abraham renia tout ce qui était contraire à la parole de Dieu, il tailla en pièces chaque obstacle qui lui barrait le chemin. On lui a dit, ta femme est trop âgée. Mais il trancha cette objection d'un coup d'épée et la rejeta hors de son chemin. Le diable lui dit, tu ne pourras jamais faire ceci ou cela. Mais Abraham brandit son épée et rejeta ces choses hors de son chemin. Il frappa, frappa, jusqu'à ce qu'il eût ouvert le chemin qui le mena de l'autre côté. Et maintenant, Seigneur, où vas-tu me conduire? Transporte ta tente à tel et tel endroit. Il y a là, et bâtis en ce lieu un autel à l'Éternel. Mais Satan va vers lui et lui dit, tu sais, je ne crois pas que tu as choisi le bon endroit. Je resterai ici, va-t'en de là. Alléluia! L'autre avait dit, tu ferais mieux de venir ici en bas. Nous avons une vie agréable. Nous faisons tous partie d'une organisation ici. Ma femme est présidente d'une sorte de société littéraire dans notre ville. Je pense vraiment que tu devrais venir chez nous. Sarah dit, Abraham, tais-toi, Sarah. Alléluia. Nous resterons ici même. C'est ici que Dieu m'a placé. C'est ici que je resterai. C'est dans cet endroit que Dieu m'a placé. Gloire soit à la puissance du nom de Jésus. Que les anges tombent sur leur face. Apportez la couronne royale. Je me tiens à Christ, le rocher solide. Tout le reste n'est que sable mouvant. Tout le reste n'est que sable mouvant. La mort elle-même. Tout le reste n'est que sable mouvant. Je me tiens à Christ, le rocher solide. C'est la semence royale d'Abraham. La semence royale. La société la plus choisie d'Angleterre est la famille royale, le sang royal, etc. La semence royale de Christ est une église remplie du Saint-Esprit. Comment cela? Ce n'est pas une semence royale par les sensations ou les sentiments, mais par la promesse de Dieu. Ils se tiennent debout, ayant avec eux la parole de Dieu, taillent leur chemin entre eux et leur ennemi, en criant « Alléluia !» Même la mort ne peut leur résister. Ils disent « Jourdain, laisse-nous passer, nous allons traverser. » Ils taillent leur chemin jusqu'à la terre promise. Amen. Que se passe-t-il? Oh, il faut vraiment que je termine. Lorsque la bataille est terminée et que les saints entrent dans la terre promise, je voudrais vous demander quelque chose. Que se passa-t-il lorsqu'Hitler entra en France? On dit que l'on ne pouvait même plus voir le ciel tant il y avait d'avions. Formant un long cortège, ils défilèrent au pas de loi, célébrant leur victoire. Lorsque Staline vint avec son armée, les tanks se touchaient presque. Il bombarda Berlin jusqu'à ce qu'il n'en reste pratiquement plus rien. C'est tout. Et lorsqu'ils entraient dans la ville, ils célébrèrent la victoire selon leur coutume. J'ai vu cela dans un film d'actualité à Londres. Je les ai vus entrer dans la ville et célébrer leur victoire. Oh, et nous donc, lorsqu'on nous annonça que la guerre était finie, nous nous sommes mis à crier, à siffler de toutes nos forces. Lorsque nos héros rentrèrent au pays, nous avons accueilli avec des cris et toutes sortes d'acclamations. J'ai un cousin qui a fait la guerre. Il m'a raconté que lorsqu'il revint, tous les vétérans avaient été tellement blessés que pas un seul d'entre eux ne pouvait sortir de son lit. Aussi, quand ils arrivèrent à New York, on les roula tous dans leur lit sur le pont, afin qu'ils puissent voir la statue de la liberté. Il me dit, ces héros, ces soldats, se mirent à pleurer lorsqu'ils virent la statue de la liberté. Ils s'étaient battus pendant 4 ans, avaient été blessés et mutilés, tout le reste, mais ils savaient que leurs femmes, leurs fiancées, leurs mères, leurs pères, leurs enfants, tous ceux qu'ils aimaient, étaient derrière cette statue de la liberté. Elle représentait pour eux ce pourquoi ils s'étaient battus. Lorsque nos héros défilèrent, un long cri d'acclamation monta dans la ville. Une fois, lorsque César avait gagné une grande bataille, il donna cet ordre. Lorsque je célébrerai mon triomphe, je veux voir à mes côtés les plus fameux d'entre mes guerriers. Aussitôt, chacun de ses officiers se mit à mettre son équipement en ordre et à bien polir son bouclier. Et ils prirent leur allure la plus martiale pour défiler, vous savez, comme le font les vrais soldats. Mais parmi eux, César vit un homme d'apparence misérable. Il fronça le sourcil et le fit appeler. Et lui dit, « Que fais-tu ici? Tu n'as même pas d'uniforme d'officier. Où as-tu reçu toutes ces cicatrices ?» Le soldat lui répondit, « Sur le champ de bataille. » César lui dit alors, « Eh bien, monte ici. Tu es celui que je désire voir assis à côté de moi. » Pourquoi cela? Parce qu'il avait montré qu'il avait été au combat. Oh, que Dieu ait pitié de l'homme qui reçoit une médaille pour s'être coupé avec une boîte de sardines. Ce que je désire, c'est recevoir mes cicatrices au combat. Paul avait dit, je porte dans ma chair les marques de Jésus-Christ. C'est pour cela que je veux me battre sur le champ de bataille. Un jour, quand notre capitaine viendra, celui qui nous a armés, qui nous a donné l'armure de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous a donné sa parole pour combattre et pour que nous puissions rester debout. Quand notre glorieux capitaine viendra sur son char, je désire pouvoir monter sur son char et entrer dans la gloire avec lui. Et vous, ne le désirez-vous pas? Alors je prendrai ma femme par le bras, je regarderai autour de moi et je verrai mes frères, leurs femmes et leurs enfants. Nous défilerons alors dans le paradis de Dieu. Les anges, au-dessus de nous, rempliront l'espace de leur cantique. Quelle célébration ce sera! Et quand la bataille sera terminée, nous porterons une couronne. Ô soldats de la croix, tendez ce matin encore le bras de la foi et saisissez-vous de cette arme. Qu'en est-il de vous, sœurs? Êtes-vous prêtes? Brandissez cette arme et dites, ô mon Dieu, peu m'importe ce que le diable m'a dit, mais dès ce matin, je veux croire. Je veux croire. Comme je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, un homme fit un rêve. Il rêva que le diable était un petit animal qui sautait contre lui en faisant « bouh ». Il fit un bond en arrière. Aussitôt, le diable devint un peu plus gros et fit « bouh ». L'homme fit encore un bond en arrière. Le diable devint encore plus gros. Finalement, il devint aussi grand que l'homme et assez fort pour le vaincre. L'homme savait qu'il avait besoin de quelque chose pour combattre le diable. Il chercha autour de lui. Il ne trouva aucune arme et ne vit qu'une Bible. Il la prit. Le diable s'approcha encore de lui et lui dit « Bouh !» Mais maintenant l'homme lui répliqua aussi « Bouh !» Et le diable devint un peu plus petit, il devint de plus en plus petit, jusqu'au point où l'homme put le battre et l'exterminer avec la parole. Et vous, sœur, vous êtes aussi un soldat, n'est-ce pas? Alors prenez cette parole et dites, il est écrit, amen, je ne mourrai pas, je vivrai. J'entrerai dans ce tabernacle et je louerai Dieu pour sa bonté à l'égard de nous tous. Croyez-vous cela, vous les saints? L'assemblée répond, oui, notre éditeur. Amen, inclinons nos têtes. Ô notre Dieu, notre Seigneur, Créateur des cieux et de la terre, que toute la terre sache que tu es encore Dieu aujourd'hui. Je pourrais prêcher aussi longtemps que je voudrais et dire toutes sortes de choses, mais ô Seigneur, une seule parole de ta bouche suffit à convaincre les cœurs. Ces mouchoirs sont ici et représentent des gens qui sont malades. Je te prie, ô Père Céleste, puisse tes bénédictions et ta puissance s'étendre sur eux lorsque je leur imposerai les mains. Ô mon Dieu, au nom de Jésus, je te prie, afin que tu oignes ces mouchoirs de ta sainte présence. Car cela est décrit dans la parole, et ce n'est pas contraire à la parole, mais il est dit dans la parole qu'ils firent toucher à Paul des mouchoirs et des linges divers. Et alors les esprits impurs furent chassés et les malades furent guéris de différentes maladies. Moi, je ne suis pas Paul, mais toi, tu es toujours Dieu. Tu es toujours le même Saint-Esprit. Je pose mes mains sur ces mouchoirs au nom du Seigneur Jésus et te demande de guérir tous ces malades. Ô Seigneur, il y a là couchée dans un lit une enfant, une jolie jeune fille, et elle est mourante. Satan lui a fait tout le mal qu'il a pu, et nos meilleurs médecins, malgré tous leurs soins, n'ont rien pu faire pour elle. Ils ne savent plus quoi faire. Mais, ô Seigneur, je suis si heureux qu'il y ait encore un chapitre dans le livre de la médecine. Nous pouvons tourner une page de plus, et nous voyons apparaître le grand médecin. C'est lui que nous appelons à notre secours ce matin. Seigneur, n'est-il pas écrit dans ta parole? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ô Seigneur, si je ne crois pas, fais de moi un croyant maintenant. Si cette jeune fille n'est pas croyante, fais en sorte qu'elle croie maintenant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il est aussi écrit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ô Seigneur, ce sont tes propres paroles. C'est toi qui as dit cela. C'est ta parole. Je suis ton serviteur. Et tu as dit, si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si vous vous accordez pour demander quelque chose, vous le recevrez. Ô mon Dieu, cet enfant est probablement la personne la plus malade qu'il y ait dans cette salle ce matin. Sans toi, elle ne peut vivre bien longtemps, car elle est très gravement atteinte. C'est pourquoi nous sommes tous dans le même accord. Chaque soldat de la foi qui se trouve ici. Et dans cette assemblée, il y a la semence royale d'Abraham. Nous nous mettons en marche contre Satan maintenant. Satan, prépare-toi, car nos armures étincellent. Notre étendard est déployé. Ces hommes et ces femmes brandissent leurs épées et marchent contre toi à cause de cette petite fille. Sors d'elle, Satan. Quitte cet enfant. En tant qu'armée du Dieu vivant, nous te mettons au défi, quitte-la au nom du Seigneur Jésus. Je vais lui imposer les mains. Satan, tu as lié cet enfant, c'est toi qui as fait ce mal. Je sais qu'un simple homme ne peut pas te résister, mais mon Seigneur t'a vaincu. Et je viens en son nom. Quitte-la, esprit démoniaque, démon de maladie, quitte cet enfant, afin qu'elle puisse être libérée dès aujourd'hui. Je dis cela au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur notre Dieu, toi qui es ressuscité des morts et qui nous as prouvé ainsi que tu étais Dieu, redonne la santé et la force à cette jeune femme afin qu'elle puisse se tenir debout dans cette salle. Le diable est sorti d'elle. Tu es celui qui peut la guérir. Puisse-t-elle vivre pour la gloire de Dieu et pour l'honorer. La parole a été prononcée, qu'elle s'accomplisse maintenant. Y a-t-il d'autres ici qui voudraient lever la main et dire, je voudrais que l'on prie pour moi. Je suis malade, j'ai besoin de Dieu. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je crois que nous avons assez de temps pour laisser les gens venir ici en avant. J'ai une grande confiance ce matin. Billy, veux-tu venir ici et t'occuper de ce côté-ci? Nous prendrons ceux-là en premier. Ensuite, nous ferons venir ceux qui sont plus en arrière, jusqu'au fond de la salle. Ensuite, nous les ferons venir comme ceci. Alors, je demanderai à Frère Neville et aux frères qui sont pasteurs de bien vouloir venir vers moi afin de pouvoir les ramener à leur place. Bien, combien d'entre vous ont revêtu leur armure? Elle va déjà beaucoup mieux. Rentre à la maison et sois guéri complètement. Amen. Ô soldats de la croix, tirez votre épée. Tirez votre épée, soldats de la croix. Marchons en avant. Je me tiens à Christ, le rocher solide. Tout le reste n'est que sable mouvant. Bien, vous pouvez venir maintenant. Que chacun reste en prière pendant que les malades s'avancent. Tirez votre épée maintenant. Traversez les lignes ennemies. Poussez des cris de joie. La ligne de prière s'avance, note de l'éditeur. Marchant au combat et brandissant la croix de Jésus en avant. Retire-toi, Satan. Qu'y a-t-il, soldat? Ne croyez-vous pas que nous pouvons vaincre? Nous avons déjà vaincu. Ô Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Tous les démons sont chassés.
Frère Branham continue à prier pour les malades, notre éditeur. Je voudrais que cette dame, il y a quelque chose qui s'est passé avec ce prédicateur qui est ici. Veuillez monter jusqu'ici. Il n'y a pas longtemps, cet homme a été renvoyé de l'hôpital pour mourir à la maison. Il n'avait plus que quelques jours à vivre. Il y a un peu plus d'un an, il a eu un cancer à la prostate. Et les médecins ne lui donnaient plus que quelques jours à vivre. Un matin, nous sommes allés vers lui très tôt. Nous avons prié pour lui, comme nous le faisons pour vous ce matin. Et maintenant, on ne trouve plus trace de cancer. Lui et sa femme travaillent dans les champs de l'Évangile depuis longtemps. Peut-être avant que je sois né. Frère Kidd répond, depuis 55 ans, notre éditeur. Vous entendez? Depuis 55 ans, avant même que je sois né, il prêchait déjà l'Évangile. Et le voici ici maintenant, guéri, à l'âge de 75 ans, non, de 81 ans. Frère Kidd dit quelque chose à Frère Branham, de l'éditeur. Il me dit qu'il vient de tenir une série de réunions de réveil de 2 semaines où il a prêché chaque soir, guéri du cancer à 81 ans. Sœur, à vous maintenant, croyez-vous? En avant, soldats chrétiens. Bien, à vous tous qui êtes ici, qu'allons-nous faire? C'est ainsi dit le Seigneur. Pourquoi restes-tu ici, Satan? Tu as perdu la bataille. Nous sommes en train de passer le Jourdain. Nous sommes en train d'entrer dans la terre promise. Qu'est-ce que cela? Quelle est cette montagne qu'ils sont en train d'élever devant nous? Toi qui t'élèves ainsi devant nous, tu deviendras une plaine. Pourquoi cela? Parce que nous la battrons jusqu'à terre avec notre épée à deux tranchants. C'est vrai. En avant, soldats chrétiens, marchons au combat, portant la croix de Jésus, allons de l'avant. Christ, notre royal maître, nous conduit vers l'ennemi, armé de sa parole. En avant, au combat, voyez flotter sa bannière. En avant, soldats chrétiens, marchons au combat, portant la croix de Jésus, allons de l'avant. Alléluia! Que faisait-il? Lorsqu'Israël partait à la guerre, qui est-ce qui marchait devant? C'était les chantres. Qui avait-il ensuite? L'arche. Le peuple venait derrière eux. Bien. Croyez-vous maintenant? Chantons. En avant, soldats chrétiens. Nous chassons tous les doutes qui sont en nous. Nous nous levons sur nos pieds et nous marchons au combat. Levons-nous tous maintenant. En avant, soldats chrétiens. Marchons au combat. Portant la croix de Jésus, allons de l'avant. Christ, notre royal maître, nous conduit vers l'ennemi. En avant, au combat. Voyez flotter sa bannière. En avant, soldats chrétiens, marchons au combat, portant la croix de Jésus, allons de l'avant. Nous ne sommes pas divisés, nous sommes tous un seul corps, unis dans l'espérance et dans la doctrine, unis dans l'amour. Que tous ceux qui croient en Dieu disent Amen. Amen. L'assemblée répond Amen de l'éditeur. Alléluia. Croyez-vous cela? Nous sommes des vainqueurs. Où est notre ennemi? Sous nos pieds. Êtes-vous prêts? Ressuscitez en Christ. Maintenant, sœur, tout est terminé. Le croyez-vous? Vous pouvez rentrer à la maison maintenant. Vous sentez-vous bien? Elle dit qu'elle se sent bien maintenant, qu'elle ira bien. Combien d'entre vous se sentent bien maintenant? Lorsqu'ils se mirent à crier, les murailles tombèrent. Amen! Et ils s'emparèrent de la ville. Amen! Amen! Croyez-vous en lui? N'oubliez pas la réunion de ce soir. Frère Neville sera là ce soir et vous apportera son message. Dimanche prochain, si Dieu le permet, je serai ici. Maintenant, quand nous quitterons cette salle, partons en chantant « En avant, soldats chrétiens !» Et dès aujourd'hui, gardez toujours cette épée à la main. Ne la remettez jamais plus dans son fourreau. Sortons-la, gagnons la bataille. Ils sont partis en vainqueurs et pour vaincre. Bien, chantons encore une fois ce premier verset. « En avant, soldats chrétiens, marchons au combat, portant la croix de Jésus, allons de l'avant. » Christ, notre royal maître, nous conduit vers l'ennemi. En avant au combat, voyez flotter sa bannière. En avant, soldats chrétiens, marchons au combat, portant la croix de Jésus. Allons de l'avant.